Étude biblique, chapitre 1, la voix prophétique. Dans l'Ancien Testament, Yirji Moskala. La notion de prophétie apparut dans l'Ancien Testament après la chute, Genèse 3, versets 1 à 6, quand les êtres humains perdirent la possibilité d'entretenir une relation directe avec Dieu. La première prophétie fut la déclaration de Dieu, que l'on appelle le proto-évangile, ou le premier évangile, verset 15. Cette déclaration merveilleuse de Dieu, montrant sa détermination à préserver la descendance humaine et à vaincre le serpent, Satan, afin de préserver le salut de l'humanité, est le fondement essentiel de la voix prophétique dans l'Ancien Testament. Cette déclaration divine fait une différence majeure dans l'histoire de l'humanité. Il est question de son salut et de l'échec du mal, et doit être comprise dans le contexte du grand conflit. En effet, Dieu déclara « Je mettrai de l'hostilité entre les forces du bien et les forces du mal. » Cette annonce sotériologique concerne des événements futurs centrés sur l'activité de Dieu et l'accomplissement de sa promesse. Dieu est la seule source du don de prophétie. Ce n'est pas une invention de personnes pieuses. Les prophètes n'auraient pas pu être à l'origine de ce phénomène, mais ils furent guidés par l'Esprit de Dieu afin de pouvoir prophétiser. 1 Pierre 1, versets 19 à 21. La révélation et l'inspiration viennent aux prophètes grâce au Seigneur, par l'intermédiaire de l'action du Saint-Esprit, et c'est la raison pour laquelle leurs paroles sont considérées comme étant d'origine divine. Nombre 24, versets 1, 2, 13, 2 Samuel 23, versets 2, Néhémie 9, versets 30, Ézéchiel 11, versets 24, Michée 3, versets 8, Zacharie 7, verset 12. Dieu communique ses messages en utilisant différents moyens pour révéler sa vérité, comme les rêves, les visions ou les dialogues. Genèse 15, verset 12, 13, Daniel 2, verset 19, 7, verset 1, 2, Habacuc 1, verset 2 à 2, verset 2, Hébreux 1, verset 1, 2. Pour dire les choses simplement, la véritable prophétie est la transmission humaine de messages divins. Il est intéressant de noter que les prophètes de l'Ancien Testament jouent un rôle majeur dans l'histoire du Nouveau Testament. Par exemple, Walter Brueggemann, The Practice of Prophetic Imagination, Preaching an Emancipating World, Minneapolis, Fortress Press, 2012, Robert B. Chisholm Jr., Handbook on the Prophets, Grand Rapids, Baker, 2002, John Eaton, Mysterious Messengers, A Course on Hebrew Prophecy from Amos Onwards, Grand Rapids, Erdmans, 1997, Donald E. Gowan, Theology of the Prophetic Books, The Death and Resurrection of Israel, Louisville, Kentucky, Westminster John Knox Press, 1998. Wayne Grudem, The Gift of Prophecy in the New Testament and Today, Revised Edition. Wheaton, Illinois, Crossway Books, 2000. G. Daniel Hayes, The Message of the Prophets, A Survey of the Prophetic and Apocalyptic Books of the Old Testament, Grand Rapids, Zondervan, 2010. Jack R. Lundbaum, The Hebrew Prophets, An Introduction, Minneapolis, Fortress Press, 2010. Samuel A. Meyer, Themes and Transformations in Old Testament Prophecy, Donners Grove, Illinois, IVP Académique, 2009. David L. Peterson, The Prophetic Literature, An Introduction, Louisville, Kentucky, Westminster John Knox Press, 2002. Paul L. Reddit, Introduction to the Prophets, Grand Rapids, Erdmans, 2008. George E. Rice, Spiritual Gifts, in Handbook of Seventh-day Adventist Theology, éditeur Raoul de Deren, Hagerstown, Maryland, Review and Herald Publishing Association, 2000, 610 à 650. Palmer O. Robertson, The Christ of the Prophets, Philadelphia, P&R Publishing, 2004. Alexander Roffe, The Prophetical Stories, The Narratives About the Prophets in the Hebrew Bible, Their Literary Types and History, Jérusalem, Magnes, 1988. Rowley, The Nature of Prophecy in the Light of Recent Study, Harvard Theological Review 38, 1945, 1 à 38. D-Brain Sandy, Plowshares and Pruning Hooks, Rethinking the Language of Biblical Prophecy and Apocalyptic, Donners Grove, Illinois, InterVarsity Press, 2002. Christopher R. Seitz, Prophecy and Hermeneutics, Toward a New Introduction to the Prophets, Grand Rapids, Baker Academic, 2007. Gary V. Smith, Interpreting the Prophetic Books, An Exegetical Handbook, Grand Rapids, Kregel Academic, 2014. Marvin A. Sweeney, The Prophetic Literature, Interpreting Biblical Text, Nashville, Abingdon Press, 2005. Willem A. Van Gemeren, Interpreting the Prophetic Word, An Introduction to the Prophetic Literature of the Old Testament, Grand Rapids, Zondervan, 1990. Michael G. Williams, The Prophet and His Message, Reading Old Testament Prophecy Today, Phillipsburg, New Jersey, P&R Publishers, 2003. Et leur livre occupant autant de place dans la Bible que le Nouveau Testament dans son intégralité. Martin Nissinen explique ceci. Le processus majeur consistant à rassembler, rédiger et interpréter les prophéties dans le cadre de la création de la Bible hébraïque fut sans précédent dans tout le reste du Proche-Orient ancien. C'est la raison pour laquelle John Oswalt conclut que les livres bibliques prophétiques sont sui generis, uniques dans leur genre. Leur rôle est bien résumé par l'historien inspiré. Le Seigneur avait averti Israël et Juda par l'intermédiaire de tous ses prophètes, de tous les visionnaires. Il leur avait dit « Revenez de vos voies mauvaises et observez mes commandements et mes prescriptions, en suivant toute la loi que j'ai instituée pour vos pères et que je vous ai envoyée par l'intermédiaire de mes serviteurs, les prophètes. » 2 Roi 17, verset 13. Kenton Sparks souligne qu'il existe peu de prophéties dans le Proche-Orient ancien en dehors de la Bible hébraïque. Les récits historiques montrent que ces prophéties étaient transmises grâce à la divination ou la consultation de présages et généralement révélées en situation de transe. En Égypte, les prophètes étaient considérés comme des prêtres. Ils avaient recours à des pratiques magiques pour donner des informations au pharaon. Dans le monde grec, les déclarations prophétiques complexes devaient être interprétées par une autre personne. En Mésopotamie, les prophètes étaient plutôt des personnages politiques au service du roi, travaillant donc à la préservation de l'institution royale. D'un autre côté, les prophètes avaient différentes fonctions en Israël. Ils servaient Dieu, Amos 3, verset 7, et leur ministère était basé sur la parole révélée de Dieu. Amos parle de sod, autrement dit de secret, d'intention ou de choses confidentielles provenant de Dieu. Ils parlaient avec autorité, Dieu étant la source de cette autorité. Ainsi, ils n'étaient pas possédés par Dieu, mais inspirés par lui. 2 Timothée 3, verset 16-17. Ils annonçaient la parole de Dieu, reprenant même parfois les rois et les prêtres. 1 Samuel 3, verset 15-18, 13, verset 10-14, 2 Samuel 12, verset 114. Ils luttaient contre les faux prophètes, voir par exemple Jérémie 28, versets 10 à 17, Ézéchiel 13, versets 1 à 23. Mais leur tâche essentielle consistait à appeler le peuple à se repentir et à vivre une relation étroite avec leur Seigneur. Ézéchiel 18, versets 30 à 32, Joël 2, versets 12, 13, Amos 5, versets 4, 6, 14, 15. John Oswalt souligne le caractère unique du rôle des prophètes et de leurs messages. Jamais le message d'un prophète hébreu n'a nécessité une confirmation par la divination. Le concept de prophétie ne peut être séparé du rôle et de la fonction prophétique. Il est indispensable d'étudier ces deux sujets ensemble, car le don de prophétie ne s'exerce pas dans le vide. Il est au contraire exercé par des êtres humains, à l'exception de l'ânesse de Balaam, voir Nombre 22, versets 20 et 1 à 33. L'être et la fonction ne peuvent être dissociés, ils forment un tout. Catégorie de prophètes. Abraham, appelé Nabi en hébreu, est le premier homme clairement identifié en tant que prophète dans la Bible hébraïque, et son rôle consistait à prier pour Abimélec. Genèse 20, verset 7. Cependant, d'après Jude, verset 14, Hénoc est le premier véritable prophète. à l'exception de Dieu qui fit la première prédiction sotériologique dans Genèse 3, verset 15, même s'il ne porte pas le nom de prophète dans l'Ancien Testament. C'est aussi à leur sujet qu'Énoch, le septième depuis Adam, a dit en prophète « Le Seigneur est venu avec ses saints par dizaines de milliers, afin d'exercer le jugement contre tous. » Outre cette déclaration, on peut noter qu'Énoch nomma son fils Mathusalem, qui est un nom peu commun et qui peut avoir des connotations prophétiques. Ce nom peut avoir plusieurs significations, comme « il enverra un homme »,« il enverra à sa mort »,« il sera envoyé à sa mort » ou « la flèche d'un homme ». Alfred Jones le traduit de façon très précise « il sera envoyé quand il sera mort ». On estime que Mathusalem vécut 969 ans. À partir de cela, on peut faire les calculs suivants. Mathusalem avait 187 ans quand Lémec naquit. Celui-ci avait 182 ans quand Noé vint au monde. Et Noé avait 600 ans quand survint le déluge. Si on additionne l'âge des pères à la naissance de leur fils, le résultat est étonnant. 187 plus 182 plus 600 égale 969. Ainsi, Mathusalem mourut exactement l'année du déluge, et cela était prédit dans son nom. On peut affirmer que les premiers prophètes bibliques étaient des prophètes honoraires. Noé, Dieu communiquait directement avec lui et il lui donna des consignes précises dans le but de préparer le peuple au déluge, même s'il ne porte pas le nom de prophète. Genèse 6 à 9, mais de héros de la justice. 2 Pierre 2, verset 5. Abraham, Isaac et Jacob. Genèse 20, verset 7. Psaume 105, verset 15. Moïse. Deutéronome 18, verset 15-18. Samuel. 1 Samuel 3, verset 20. Et David. Acte 2, verset 29-30. On peut classer les prophètes d'une autre façon. 1. Les prophètes qui n'écrivaient pas, comme Énoch, Abraham, Élie et Élisée. Et 2. Ceux qui écrivaient, 4 prophètes nageurs et 12 prophètes mineurs, soit 16 au total. Les prophètes qui écrivirent des livres peuvent également être classés de manière chronologique. 9e siècle avant Jésus-Christ, Joël. 8e siècle avant Jésus-Christ, Jonas, Amos, Osée, Ésaïe, Michée. Prophètes du 7e siècle avant Jésus-Christ, et donc avant l'exil, Nahum, Habacuc, Sophonie. Les prophètes de la période de l'exil, Jérémie, Abdias, Ézéchiel, Daniel. Et les prophètes de la période qui suivit l'exil, Agé, Zacharie, Malachie. Il existe une autre catégorie de prophètes dont font partie ceux qui rédigèrent des documents ou des livres qui ne furent pas inclus dans le canon biblique. Jachère, Samuel, Nathan, Gad, Shemaïa, Oded, Aïja, Jéhu et Ido. Pour plus de détails, voir Josué 10, verset 13, 2 Samuel 1, verset 18, 1 Chronique 29, verset 29, 2 Chronique 9, verset 29, 12, verset 15, 15, verset 8, 20, verset 34. De plus, il y avait également des prophétesses en Israël comme Myriam, Exode 15, verset 20, Déborah, Juge 4, verset 4, Hulda, 2 Roi 22, verset 14, 2 Chronique 34, verset 22, et la femme d'Ésaïe, Ésaïe 8, verset 3. Rôle des prophètes en temps de crise et lors de moments cruciaux de l'histoire du salut. Dieu envoya des prophètes d'une façon et à des époques bien précises. Les prophètes furent appelés à exercer leur ministère lors de moments cruciaux de l'histoire du salut et en cas de crise profonde. Généralement, plus les crises étaient importantes, plus les prophètes étaient solides. Par exemple, les prophètes Élie et Élisée exercèrent leur ministère à l'époque où le culte à Baal et le syncrétisme religieux étaient très répandus. On peut citer d'autres exemples, comme le début de la monarchie, Nathan, Gad, la période qui précéda la chute du royaume du Nord, Osée, Amos, celle qui précéda la destruction de Jérusalem et de son temple en 587 à 586 avant Jésus-Christ, Habacuc, Jérémie. L'exil à Babylone, Ézéchiel, Daniel, et la période qui suivit le retour de Babylone, Agé, Zacharie. Dieu désirait toujours aider son peuple et l'encourager à suivre ses instructions. Ésaïe 1, versets 2, 3, 18, 19. Michée 6, versets 6 à 8. On peut noter d'autres points communs entre les périodes prophétiques. En effet, des prophètes furent appelés lors de chaque événement crucial du plan du salut ou lors de l'accomplissement de périodes prophétiques annoncées. Noé, avant le déluge et les 120 années de grâce, puis après. Abraham, le point de départ d'un nouveau ministère auprès de toutes les nations. Moïse, l'exode depuis l'Égypte, la fin du séjour de 430 ans en Égypte. Josué, qui entra dans la terre promise. Samuel, au début de la période monarchique. Osée et Amos, qui servirent avant la chute du royaume du Nord et de la Samarie en 722 avant Jésus-Christ. Jérémie, Ézéchiel et Daniel, avant et durant la période de captivité à Babylone. Jean-Baptiste, avant la première venue de Jésus. Étienne, qui fut témoin de la fin de la période prophétique de 70 semaines annoncée dans Daniel 9, versets 24 à 27. Qui sont les prophètes de l'Ancien Testament? Le don de prophétie est identifiable sous ses différentes formes dans le ministère des prophètes de l'Ancien Testament, montrant qui sont les prophètes, quel est leur rôle et permettant de définir la nature du phénomène prophétique. 1. Un prophète est une personne appelée par Dieu. Un prophète est une personne qui était appelée par Dieu lui-même à exercer un ministère prophétique. La fonction de prêtre et celle de roi étaient héréditaires, mais il fallait être appelé par Dieu pour devenir prophète. Les prophètes ont des caractéristiques spécifiques, différentes de celles des rois, des prêtres ou des sages. De nombreux récits relatent de quelle façon les prophètes étaient appelés, voir par exemple l'appel de Moïse, Exode 3, de Samuel, 1 Samuel 3, d'Ésaïe, Ésaïe 6, de Jérémie, Jérémie 1, et d'Ézéchiel, Ézéchiel 1 à 3. Le fait qu'ils étaient appelés confère une autorité aux prophètes, et c'est un signe distinctif permettant de devenir prophète. 2. Un prophète est un porte-parole de Dieu. Les prophètes sont les porte-paroles de Dieu. Leur rôle essentiel consiste à parler de la part de Dieu. Il est clairement expliqué dans Exode 4 et 7 que Moïse allait agir comme Dieu, Elohim, avec le Pharaon, et qu'Aaron serait le prophète de Moïse, Nabi, ce qui signifie que la tâche d'Aaron consisterait à dire au Pharaon ce que Moïse lui dirait. Aaron serait l'intermédiaire et le messager annonçant les paroles de Dieu. Ainsi, Dieu appelle ses prophètes à annoncer ses paroles. Le Seigneur dit à Moïse, « Regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon. Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Aaron, ton frère, le dira au Pharaon, pour qu'il laisse partir de son pays les Israélites. » Exode 7, versets 1, 2. « Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. » Et je vous enseignerai ce que vous devrez faire. Il parlera pour toi au peuple. Il sera ta bouche et tu seras son Dieu. » Exode 4, versets 15-16. Un prophète est donc la bouche de Dieu, son orateur. Jérémie 15, verset 19. Un prophète est un porte-parole accrédité et ayant de l'autorité, appelé par Dieu lui-même. C'est un « nabi », un mot que l'on trouve 309 fois dans la Bible hébraïque. Autrement dit, un prophète. Les biblistes ne sont pas tous d'accord sur le sens de ce terme. On peut l'interpréter de deux façons. 1. Ce terme dérive du mot acadien « nabou ». Il s'agit d'une langue qui était utilisée avant l'hébreu, qui signifie « être appelé »,« celui qui est appelé », ou du mot « nabitou » qui signifie « l'appelé » par les dieux. Ainsi, « nabi » signifierait « celui qui est appelé à effectuer une certaine tâche ». 2. Le mot « nabi » vient du verbe hébreu « naba », dont la racine signifie « parler »,« prophétiser ». Westermann affirme que l'expression prophétique « ainsi parle le Seigneur » est caractéristique des messagers des rois de Marie. Ainsi, les prophètes parlent de la part de Dieu. Nous pouvons considérer que ces deux significations sont complémentaires et qu'un prophète est une personne appelée par Dieu et autorisée par lui à être un porte-parole dont la tâche consiste à communiquer la révélation de Dieu. Par conséquent, Dieu parlait à Israël par l'intermédiaire des prophètes. Abraham Heschel corrige à juste titre une mauvaise compréhension de l'opinion couramment répandue selon laquelle les prophètes sont la bouche de Dieu. Les prophètes ne sont pas uniquement des porte-paroles, mais des personnes, pas des instruments, mais des partenaires, des associés de Dieu. Les prophètes ne sont pas des spectateurs, mais des acteurs. Ils sont personnellement engagés, impliqués, investis dans leur mission, à savoir la mission de Dieu. Les prophètes transmettent leur message en tant qu'acteurs, comme Osée par exemple, Osée 1, verset 2, Ésaïe, Ésaïe 20, verset 2 à 4, Michée, Michée 1, verset 8, ou Ézéchiel, qui accomplit 12 actions symboliques, Ézéchiel 3, verset 26, 27, 4, verset 1 à 17, 5, verset 1 à 4, 12, verset 1 à 6, 12, versets 17 à 20, 21, versets 6, 7, 21, versets 18 à 23, 24, versets 15 à 26, 37, versets 15 à 23. Le texte de Nombre 12, versets 6 à 8, explique clairement quelle est l'autorité des prophètes en faisant une comparaison avec le ministère de Moïse. Dieu lui-même parle. Il dit « Écoutez mes paroles, je vous prie. S'il y a parmi vous un prophète du Seigneur, c'est dans une vision que je me ferai connaître à lui, c'est dans un rêve que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de Moïse, mon serviteur. Il est l'homme de confiance pour toute ma maison. Je lui parle de vive voix, en vision, mais sans énigme, et il contemple la forme même du Seigneur. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre Moïse, mon serviteur ? Moïse est un prophète par excellence, et il est la norme pour tous les prophètes qui suivront. Toutes les déclarations prophétiques devaient être évaluées en fonction des révélations faites par Dieu à Moïse. Il reçut le titre de prophète parce que 1. Dieu communiquait avec lui comme s'il était son ami, Exode 33 verset 11, Deutéronome 34 verset 10. 2. Il était son fidèle serviteur, on l'appelait le serviteur du Seigneur, Exode 14 verset 31, Nombre 12 verset 7-8, Deutéronome 34 verset 5, Josué 1 verset 1-2, comparé avec Hébreux 3 verset 2-5. 3. Il accomplissait des actes extraordinaires, des signes et des miracles. Deutéronome 34 verset 11-12. 4. Il fut le médiateur de l'alliance au mont Sinaï. Exode 19 verset 3 à 8, 20 verset 18 à 20, 24 verset 3 à 8. 5. Il fut à l'origine du développement de l'Église de l'Ancien Testament après l'Exode, Israël devenant une nation. 6. Il exerça plusieurs fonctions que Dieu lui confia. Il joua son rôle de responsable grâce à ses paroles et à ses écrits. Ainsi, tous les prophètes qui le suivirent furent comparés à lui. Son ministère devint la norme, et les gens attendaient des prophètes tels que Moïse. Le texte de Deutéronome 18, verset 15, fait allusion à cette espérance messianique. « Le Seigneur, ton Dieu, suscitera pour toi, de ton propre sein, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Samuel et Élie étaient également considérés comme des prophètes ayant un statut particulier. Jérémie 15, verset 1, 2 Chronique 35, verset 18, Malachie 4, verset 5, « Même s'ils n'écrivirent pas de livre. » Ils étaient des exemples, et ils exercèrent leurs fonctions sans faire d'erreur, à une époque de crise hors du commun. Samuel défendit la théocratie et encouragea les deux premiers rois d'Israël à faire la volonté de Dieu. Élie fit preuve d'une fidélité extraordinaire au mont Carmel quand il s'opposa aux 850 faux prophètes de Baal et Ashéra et encouragea la nation entière à servir le Seigneur. Voir 1 Rois 18, versets 16 à 46. Un prophète est une voix, col, dans le désert. Ésaïe 40, verset 3, Marc 1, verset 3. Un messager, Malak, de Dieu. Malachie 3, verset 1, Matthieu 3, verset 1 à 4. Voir aussi Malachie 2, verset 7. Gary V. Smith le souligne parfaitement. Les récits écrits des prophètes nous montrent qu'il s'agit de personnes normales, prêchant à des auditoires variés dans des contextes très différents. Tous ont répondu à l'appel de Dieu en proclamant un message pouvant transformer la vie des gens et les incitant à réévaluer la façon dont ils concevaient les événements se déroulant dans le monde. Ils se considéraient comme des messagers communiquant les paroles de Dieu à un auditoire qui avait besoin de l'amour, de la sagesse, de la puissance et de la grâce de Dieu. Abraham Heschel explique ceci. Les prophètes affirment être bien plus que des messagers. Ils se tiennent dans la présence de Dieu. Jérémie 15, verset 19. Ils assistent au conseil secret du Seigneur. Jérémie 23, verset 18. Ils participent à ce conseil. Ils ne sont pas uniquement les porteurs de messages dont la fonction consiste à se rendre ici ou là. Ils sont des conseillers en plus d'être des messagers. Grudem écrit à juste titre. Le rôle principal des prophètes de l'Ancien Testament était d'être des messagers de Dieu, envoyés pour adresser aux hommes et aux femmes les paroles de Dieu. 3. Un prophète proclame la parole divine. Les prophètes utilisent souvent certaines expressions spécifiques. Ainsi parle le Seigneur. Ésaïe 45, verset 1, 49, verset 8, Jérémie 18, verset 13, 29, verset 10. Le Seigneur me dit. Ésaïe 8, verset 1, Osée 3, verset 1. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Ésaïe 8, verset 11. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ézéchiel 6, verset 11, 7, verset 5, Abdias, verset 1. La parole du Seigneur s'adressa à moi. Jérémie 1, verset 4, 13, 2, verset 1, Ézéchiel 6, verset 1. Oracle du Seigneur. Jérémie 3, verset 20, 4, verset 1, 8, verset 1, Agé 1, verset 13. La parole du Seigneur fut adressée à « Suis le nom d'un prophète ». 1 Roi 16, verset 1, Osée 1, verset 1, Joël 1, verset 1, Jonas 1, verset 1, Michée 1, verset 1, Sophonie 1, verset 1, Zacharie 1, verset 1. Un homme de Dieu vint sur une parole du Seigneur. 1 Roi 13, verset 1, et ainsi de suite. Les prophètes proclament les paroles de Dieu parce que Dieu les leur a révélées. Amos 7, verset 15, 16. Ainsi, cela leur confère la plus haute autorité. Les secrets, sod, de Dieu leur sont révélés. Amos 3, verset 7, Genèse 18, verset 17. Ils voyaient Dieu et ils le rencontraient personnellement. 1 Roi 17, verset 2, 18, verset 15, Ésaïe 6, verset 1 à 9, Jérémie 1, versets 4 à 10, Ézéchiel 1, verset 28, Daniel 7, verset 9, 10, 13, 14, Amos 9, verset 1. Ils étaient ses porte-paroles. Ils parlaient au nom de Dieu à son peuple et parfois même aux autres nations. Voir les oracles des prophètes contre les nations étrangères dans Ésaïe 13 à 23, Jérémie 46 à 51, Ézéchiel 25 à 32, Amos 1 et 2, ou la mission de Jonas auprès des Ninivites dans Jonas 1 à 4. Voir aussi le voyage de Seraïa à Babylone avec un message de Jérémie dans Jérémie 51, versets 59 à 64. Ils étaient en charge des paroles de Dieu. Par l'intermédiaire des prophètes, le Dieu invisible devient audible. Les prophètes rendent la présence de Dieu plus réelle. Ils affirment avoir été en la présence de Dieu. Samuel Meyer déclare que « seuls les prophètes affirment s'être tenus en la présence de Dieu ». Abraham Heschel souligne que la tâche des prophètes consistait à amener le peuple en la présence de Dieu. Ils ne pouvaient pas utiliser le langage de l'essence, ils devaient utiliser le langage de la présence. Ils n'essayaient pas de le décrire, ils essayaient de le présenter, de le rendre présent. Pour cela, seuls des mots forts et intenses pouvaient être utiles, les termes abstraits ne l'étaient pas. L'autorité d'un prophète vient de Dieu, de sa révélation et de ses paroles. La fonction prophétique ne peut s'acheter ni être reçue en héritage, elle est donnée par Dieu. Si un prophète est appelé par Dieu, comme le fut Moïse, ses paroles font autorité et doivent être respectées. Lorsqu'un prophète parle, c'est comme si Dieu parlait, parce que le prophète proclame ses paroles et non les siennes. Voir 2 Pierre 1, versets 19 à 21. Le texte de Deutéronome 18, versets 17 à 19, explique pourquoi un prophète a de l'autorité et doit être respecté. Alors le Seigneur me dit, « Ils ont bien fait de dire cela. C'est un prophète comme toi que je leur susciterai du milieu de leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles que le prophète aura dites en mon nom, alors moi-même je lui en demanderai compte. » Grudem affirme à juste titre que les paroles des prophètes sont empreintes d'une grande autorité. Nous pouvons faire totalement confiance aux paroles de l'Ancien Testament, et lorsque les instructions s'appliquent à nous aujourd'hui, nous devrions les mettre en pratique, car ces instructions viennent de Dieu. La proclamation des paroles de Dieu est essentielle, car cela permet d'exercer un contrôle sur le don de prophétie. L'orthodoxie et l'authenticité d'un prophète peuvent être établies et confirmées en étudiant ce qu'il dit. Ésaïe 8, versets 19, 20. Cela permet d'équilibrer la dimension spirituelle et visionnaire d'un prophète, car tout le monde peut affirmer avoir reçu une révélation et un message de la part de Dieu. Les paroles d'un prophète sont tangibles, elles peuvent être évaluées et jugées de façon à vérifier si elles sont en harmonie ou en contradiction avec les directives des révélations précédentes de Dieu. Le texte de Deutéronome 13, versets 2 à 5, évoque la nécessité de s'assurer de la crédibilité et de l'authenticité du message des prophètes. S'il surgit au milieu de toi un prophète ou un visionnaire, même s'il t'annonce un signe ou un prodige, et que le signe ou le prodige qu'il t'avait promis se réalise, s'il dit « Suivons et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou les visions de ce visionnaire. Car c'est le Seigneur votre Dieu qui vous éprouvera de cette manière, pour savoir si vous êtes des gens qui aimez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de tout votre être. C'est le Seigneur votre Dieu que vous suivrez, c'est lui que vous craindrez, ce sont ses commandements que vous garderez, c'est sa voix que vous écouterez, c'est lui que vous servirez, c'est à lui que vous vous attacherez. Il est important de comprendre que même les faux prophètes peuvent accomplir des miracles, et que des prophètes faisant des choses extraordinaires peuvent égarer le peuple. Les actes étonnants et les miracles ne sont pas la preuve de la fiabilité et de l'authenticité d'une prophétie ou de l'enseignement d'un prophète. Ainsi, il est impossible qu'un véritable prophète de la Bible proclame un message faisant l'éloge d'autres dieux et de leur culte. Les signes et les miracles qu'un prophète accomplit sont secondaires par rapport au message qu'il proclame. Une personne qui est capable d'annoncer un signe ou un miracle n'est pas nécessairement un prophète. Si le message que cette personne proclame encourage son auditoire à faire preuve de fidélité et d'obéissance à Dieu et aux Écritures, alors seulement ce signe ou ce miracle peut être considéré comme étant légitime. Le principe est donc clair. Le message prophétique doit être en harmonie avec les révélations précédentes de Dieu et avec sa loi. Le nouveau message ne doit pas être en contradiction avec les principes essentiels enseignés par d'autres prophètes. Le don de l'esprit n'est pas un signe authentique de la vérité, seul le fruit de l'esprit l'est. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas par ton nom que nous avons parlé en prophète, par ton nom que nous avons chassé des démons, par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. » Matthieu 7, versets 21 à 23. Grudem souligne que, dans l'Ancien Testament, chaque prophète est jugé ou évalué, mais pas les différentes parties de chaque prophétie. Cela signifie que, lorsqu'un prophète parlait au nom du Seigneur, si une seule de ses prophéties ne se réalisait pas, il s'agissait d'un faux prophète. Deutéronome 18, verset 22. Le personnage de Samuel fut évalué, ainsi que son message dans son intégralité. Voir 1 Samuel 3, verset 19, 9, verset 6, Jérémie 28, verset 8, 9, et cela prévalut. 1 Samuel 2, verset 30. Les prophètes bibliques sont toujours associés de près à la loi de Dieu. La loi, en hébreu Torah, l'enseignement et les instructions de Dieu, est indissociable de leurs activités. Tout ce que les prophètes faisaient était fermement enraciné dans la Torah. ils étaient appelés à transmettre les paroles de Dieu au peuple. Ils le guidaient vers la loi de Dieu. Ainsi, le Pentateuque est le fondement sur lequel s'appuyaient les prophètes et auquel ils se référaient. Le principe de la transcendance de Dieu empêchait les prophètes de manipuler Dieu ou de modifier son message. L'un des exemples marquants est celui du prophète Balaam, qui ne parvenait qu'à faire des prophéties authentiques. Nombre 22, versets 35-38, 23, versets 11, 12, 25-26, 24, versets 12-13, malgré ses efforts pour agir autrement. Nombre 24, versets 1-2. Il prononça les plus belles bénédictions sur le peuple de Dieu. Nombre 23, versets 18 à 24, 24, versets 9, et fit des prophéties messianiques. Nombre 24, versets 17 à 19. Cependant, il ne fut pas fidèle à l'appel qu'il avait reçu. Il donna de mauvais conseils, et sa vie se termina par une mort violente. Nombre 25, versets 1, 2, 31, versets 8, 16, Josué 13, versets 22, voir 2 Pierre 2, verset 15, Apocalypse 2, verset 14. Il est intéressant de noter que Dieu accorda des rêves prophétiques au Pharaon, Genèse 41, versets 1 à 40, ou à Nabuchodonosor, voir Daniel 2 et 4. Mais l'interprétation correcte de ces rêves fut donnée par des hommes de Dieu, par exemple Joseph ou Daniel, afin que le message divin ne soit pas altéré et confondu avec des paroles relevant de la magie ou de la divination. Les paroles et le contenu du message de Dieu sont plus importants que la façon de les transmettre. Ainsi, les symboles inhabituels des visions apocalyptiques des livres prophétiques d'Ézéchiel, Daniel et Zacharie nécessitent une démarche cognitive minutieuse afin de comprendre la signification du message de l'Ancien Testament. 4. Un prophète présente une image juste de Dieu. La tâche principale d'un prophète consistait à présenter une image juste de Dieu. Les prophètes proposent une image de Dieu dans le contexte du grand conflit entre le bien et le mal. Il ne s'agit pas pour les prophètes de donner une image sentimentale de Dieu, ni de le décrire comme un Dieu distant, cruel, tyrannique ou capricieux. Ils ne sont pas non plus appelés à présenter le Dieu des philosophes, à savoir un Dieu idéaliste, passif et non historique. Les prophètes montrent que Dieu est un Dieu vivant, désireux d'entretenir une relation avec ses créatures, qui souffre avec elles et qui intervient. Déjà dans le jardin d'Éden, Satan essaya de donner une image erronée du caractère de Dieu et de faire de lui un monstre. Genèse 3, versets 1 à 5. Le rôle principal des prophètes consistait à restaurer la véritable image de Dieu, car le peuple périt faute de connaissance. Osée 4, versets 1-6, 5, verset 1. Oswald déclare avec pertinence que « la compréhension qu'ont les prophètes de Dieu, de l'humanité et du monde d'une part, du sens et du but de l'expérience chrétienne d'autre part, et enfin de la réalité, est unique ». Les prophètes corrigeaient l'image erronée de Dieu. Ils présentaient le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des prophètes, le Dieu d'amour, de vérité, de justice et de liberté. Genèse 3, versets 1 à 15, Exode 34, versets 6-7. Seule une image correcte de Dieu peut susciter l'adhésion. Romains 2, verset 4. Déjà dans la Genèse, Dieu est présenté comme Dieu le Créateur, le Juge, le Sauveur, le Souverain, le Consolateur, le Seigneur de l'Histoire, le Dieu de l'Alliance, le Dieu personnel. Les prophètes parlaient d'espérance et de restauration. Certains prophètes accomplirent de grands miracles, notamment Moïse, Élie et Élisée, mais d'autres non. Cependant, la tâche principale de tous les prophètes était de proclamer le message divin de façon fidèle. Le message prophétique était double. Il s'agissait de proclamer le jugement et la condamnation, mais aussi l'espérance, la restauration et le salut. Le message prophétique est clairement monothéiste et va à l'encontre de toute forme d'idolâtrie. C'est un message éthique et empreint d'une grande moralité qui respecte Dieu et les êtres humains. Il encourage un comportement moral et responsable. La justice est une autre dimension importante du message des prophètes. Cependant, leur message principal était toujours un message de repentance et de retour vers le Seigneur, Ézéchiel 14, verset 6, 18, verset 30 à 32, 33, verset 11, Osée 6, verset 1, 14, verset 1, 2, Joël 2, verset 12 à 14, Amos 5, verset 4 à 6, 14, 15. Ils étaient les gardiens de la théocratie et voulaient que Dieu dirige la vie de tous les êtres humains et devienne leur Dieu et Seigneur. Les prophètes parlaient du jour du Seigneur, voir par exemple Joël 1, verset 15, 2, verset 1, 11, 31, 3, verset 14, Amos 5, verset 18, Sophonie 1, verset 14 à 3, verset 1, qui était le symbole de la seconde venue du Christ. Zimmerli souligne à juste titre qu'en de nombreuses occasions, les paroles prophétiques concernant « le jour de Yahvé » sont interprétées comme étant un événement pertinent pour le monde entier. Les véritables prophètes devaient dénoncer les croyances erronées concernant Dieu, comme le firent Élie et Daniel, 1 Rois 18, versets 18 à 39, Daniel 3, versets 1 à 30, 7, versets 8, 24 à 27, 8, versets 9 à 26, et combattre les faux prophètes et leurs pratiques, Ézéchiel 13. Il est intéressant de noter qu'il n'y a pas de mot dans la Bible hébraïque pour décrire les faux prophètes. La Septante utilise le terme « pseudo-prophétesse », voir Jérémie 28, verset 1, Jérémie 29, verset 1, 8, Zacharie 13, verset 2. Mais cette terminologie n'existe pas en hébreu. Le mot « nabi » est utilisé pour désigner un véritable ou un faux prophète. Leur système de croyances et leurs pratiques permettaient de les identifier comme des vrais ou des faux prophètes. C'est la raison pour laquelle en Israël, il était assez difficile de faire la distinction entre les vrais et les faux prophètes. Abraham Heschel explique ceci. Le Dieu des philosophes est un concept dérivé d'idées abstraites. Le Dieu des prophètes est dérivé des faits et des événements. Quand les prophètes pratiquaient la magie ou la divination, Ésaïe 8, verset 19, Jérémie 14, verset 14, se tourner vers de faux dieux et tomber dans l'idolâtrie, Ézéchiel 8, verset 6 à 18, 14, verset 3 à 8, 20, verset 30 à 44. Leur moralité était douteuse, Jérémie 23, verset 14. Ils prédisaient des choses qui ne se produisaient pas, Jérémie 28, verset 2 à 4, 10, 11, 15 à 17. Ou égarer le peuple, Deutéronome 13, verset 2, 18, verset 20, Jérémie 2, verset 8. Ainsi, ils étaient identifiés comme des serviteurs infidèles. 5. Un prophète interprète l'histoire. Quand je pose la question « Selon vous, qu'est-ce qu'un prophète ?» beaucoup de gens répondent qu'un prophète est une personne qui prédit les événements à venir. Cette réponse est partiellement vraie, car les prophètes peuvent prédire l'avenir. Mais contrairement aux idées reçues, prédire le futur était généralement une tâche mineure, à l'exception du prophète apocalyptique Daniel. Le mot « prophète » est dérivé du terme grec « prophétesse », qui signifie littéralement « prédire ». Cependant, cette approche est réductrice et partiellement fausse, car les prophètes prédisaient rarement l'avenir. C'était une partie minime de leur fonction. Il est intéressant de noter que le canon hébraïque place dans la partie prophétique de l'Ancien Testament des livres qui, dans le canon chrétien, font partie des livres historiques. Le canon hébraïque est composé de trois sections. 1. Le Pentateuque. 2. Les prophètes. A. Les premiers prophètes, Josué, Juge, 1er et 2e Samuel, 1er et 2e Roi, qui dans notre canon font partie des livres historiques. Et B. Les prophètes suivants, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et les prophètes mineurs. Et 3. Les écrits qui comportent les livres de sagesse et le reste des livres historiques. Ainsi, d'après le canon hébraïque, les prophètes interprètent l'histoire. Ils le font selon la perspective de Dieu. Il n'y a pas de prophétie, ni de vie, d'ailleurs, sans mémoire. Le rôle premier des prophètes bibliques ne consiste pas à satisfaire notre curiosité concernant l'avenir. Peterson mentionne que les prophètes sont présentés comme des historiens. Reddit affirme que la grande majorité des prophètes proposent des explications au sujet d'événements passés et présents, exhortent le peuple à suivre la bonne voie, encourage les prêtres à proposer un enseignement juste et les dirigeants et les juges à rendre la justice avec droiture. Il motive plus qu'il n'annonce. Les prophètes interprétaient l'histoire passée afin d'aider le peuple à la comprendre et donc à faire ce qui était juste et à prendre des décisions responsables. Les prophètes encouragent l'action. Ainsi, les prophètes s'intéressent au temps dans toutes ses dimensions. Ils interprètent ce qui s'est passé dans l'histoire, ils prédisent le futur, mais ils encouragent aussi le peuple à agir de façon éthique dans le présent. 6. Un prophète est une personne particulièrement perspicace. Un prophète fait preuve d'une grande lucidité dans les situations complexes. C'est la raison pour laquelle on l'appelle « roé », ce qui signifie « celui qui voit », utilisé 11 fois dans la Bible. La racine hébraïque de ce nom est « ra'a », ce qui signifie « voir » ou « percevoir ». Les prophètes perçoivent ce que d'autres ne voient pas. 1 Samuel 9, verset 19, 15, verset 28, Ézéchiel 1, verset 1, Amos 8, verset 1, 2, Jérémie 1, verset 11 à 14, 24, verset 3 à 5, 8, Zacharie 4, verset 2 à 6. Ils connaissent la volonté de Dieu dans la mesure où celui-ci la leur révèle. Ils sont des osés, des visionnaires, employés 16 fois dans la Bible. La racine hébraïque shaza signifie voir, admirer, regarder intentionnellement, avoir une vision. Nombre 24, verset 4, Ésaïe 1, verset 1, 13, verset 1, Amos 1, verset 1, Abdias, verset 1, Michée 1, verset 1, Habacuc 1, verset 1. C'est la raison pour laquelle un prophète est une personne ayant une vision, voyant la vie du point de vue de Dieu et selon sa perspective. Cela ne signifie pas que les prophètes comprennent tout. Ils posent aussi des questions. Ils doivent sonder les Écritures pour obtenir des réponses. Et parfois, ils doivent apprendre à vivre avec leurs questions. Daniel 7, verset 28, 8, verset 27, 9, verset 2, 22, 23, 12, verset 8, 9, Habacuc 1, verset 2, 12, 13, 2, verset 1 à 3, 3, verset 2, 3, 16 à 19. Aucun prophète ne pose autant de questions que Zacharie. 1 Pierre 1, verset 10 à 12. Les prophètes peuvent parler de certaines choses uniquement si Dieu les leur révèle. Par exemple, Élisée ne connaissait pas la cause du chagrin d'une femme. 2 Rois 4, verset 27. C'est Dieu qui révèle l'avenir aux prophètes. 2 Rois 8, verset 10, 13. Et les choses secrètes. 2 Rois 4, verset 27. L'expérience de Balaam est intéressante. Il ne devait révéler la parole de Dieu qu'au roi moabite Balak. Nombre 22, verset 35 à 38. 23, verset 11, 12, 26. 24, verset 12, 13. Quant à Daniel, il ne comprenait pas ce que Dieu lui avait révélé. Daniel 8, verset 27, 12, verset 8. Il est intéressant de noter que les trois termes utilisés pour désigner un prophète sont utilisés dans 1 Chronique 29, verset 29, livre dans lequel Samuel est appelé le voyant, Nathan, le prophète, et Gad, le visionnaire. Du fait que les prophètes reçoivent une révélation particulière de la part de Dieu concernant le futur, le grand conflit et les détails du plan du salut, ils peuvent prédire l'avenir, généralement l'avenir proche. Jérémie 28, versets 15 à 17, Ézéchiel 24, versets 15 à 18, Habacuc 1, verset 6. Parfois, les prophètes peuvent même prédire l'avenir lointain, Ésaïe 24 à 27, Ézéchiel 38, 39, Daniel 2, 7, 8, 9, versets 24 à 27, alors que les faux prophètes ne sont pas capables de voir au-delà du temps présent. En fait, les prophètes voient la signification et la portée de ce que Dieu leur révèle. Ils sont capables de comprendre la pertinence du sujet qui leur est présenté. Amos 7, versets 7, 8, 8, versets 1, 2. Cette capacité des prophètes à percevoir les implications d'un sujet montre qu'ils sont remplis de l'esprit. Ils peuvent comprendre ce que Dieu a l'intention de faire. Le but ultime de Dieu est le salut de l'humanité. Ainsi, un véritable prophète conduit les hommes à Christ. Ésaïe parle d'Emmanuel. Ésaïe 7, verset 14. Du Fils divin qui devait naître. Ésaïe 9, verset 5. Du roi Davidique. Ésaïe 11, versets 1 à 16. Et du serviteur du Seigneur. Ésaïe 42, versets 1 à 9. 49, versets 1 à 7. 50, versets 4 à 9. 52, versets 13 à 53. Versets 12. 61, versets 1 à 3. Ézéchiel fait 5 prédictions messianiques. Ézéchiel 17, versets 22, 20 et 1, versets 27, 29, versets 20 et 1, 34, versets 23, 37, versets 24, 25. William souligne « Tout l'Ancien Testament conduit à lui, Jésus-Christ, et tout le Nouveau Testament médite sur le sens des événements liés au Christ. De plus, les prophètes parlent du royaume de Dieu à venir. Ésaïe 24 à 27, Daniel 2 et 7. L'annonce du jugement sur les nations comme Babylone et l'Égypte faisait partie intégrante de leur tâche. Daniel évoque même les activités de la petite corne. Les prophètes prêchaient également au sujet du jugement de Dieu sur son peuple. Joël 3, versets 14 à 16, Amos 5, versets 18 à 24. Un prophète est une personne concernée par le passé, le présent et le futur, ce qui lui permet d'aider les gens à choisir une bonne orientation, à adopter une bonne perspective et à prendre des décisions justes. Les prophètes vont dans le sens de l'action et encouragent le peuple de Dieu à agir maintenant. 7. Un prophète est un homme de Dieu. Un prophète est aussi appelé Is Elohim, ce qui signifie « homme de Dieu ». Cette expression est utilisée 76 fois dans l'Ancien Testament, 1 Samuel 2, verset 27, 9, verset 6 à 10, 1 Roi 12, verset 22, 17, verset 24, 2 Roi 4, verset 7, 9, 1 Chronique 23, verset 14, 2 Chronique 8, verset 14. Pourquoi cette appellation ? Cette expression évoque une relation particulière entre Dieu et le prophète. Il appartient à Dieu, mais en même temps, cette formulation parle de la vie qu'il est appelé à mener. Ainsi, le prophète est un homme saint, un homme de Dieu qui proclame les paroles de Dieu. Il est intéressant de noter que cette expression n'est utilisée pour aucun des prophètes littéraires. 8. Un prophète est un homme de l'esprit. Un prophète est également Ish Haruach, c'est-à-dire homme de l'esprit. Osée 9, verset 7. Même si dans le livre d'Osée, cette appellation est utilisée de façon péjorative, il n'en demeure pas moins qu'un prophète est dirigé par l'Esprit, rempli de l'Esprit et accompagné par le Saint-Esprit. Sans lui, un prophète est impuissant. L'Esprit de Dieu vint sur lui, Balaam, afin qu'il puisse prophétiser. Nombre 24, verset 2. C'est l'Esprit de Dieu qui donne un message au prophète. Ézéchiel 2, verset 1, 3, verset 12, 24. 2 Pierre 1, versets 20 et 1. Il y a un jeu de mots avec le terme « ruach » dans Jérémie 5, verset 13, car « ruach » peut signifier « esprit » de Dieu, mais aussi « vent ». Les faux prophètes seront réduits à un souffle, ce n'est pas Dieu qui parle en eux, que leur menace soit pour eux. La fonction prophétique est un ministère rendu possible par l'esprit. Juges 3, verset 10, 6, verset 34, 11, verset 29, 13, verset 25, 14, verset 6, 19, 15, verset 14, 15, 2 Samuel 23, verset 2, Néhémie 9, verset 20, 30, Ésaïe 61, verset 1, 63, verset 14. On raconte l'histoire d'un homme qui rendit visite à son rabbin qui était mourant. Il lui dit « Maître, Dieu m'a parlé dans un rêve et m'a dit que j'étais votre successeur. Vous devez me nommer à votre poste avant de mourir. » Le rabbin lui répondit avec sagesse. « Rentre chez toi, et si tu fais le même rêve cette nuit, reviens me voir. » Le lendemain, l'homme retourna voir le rabbin et lui dit qu'il avait fait le même rêve. Le rabbin insista sur l'importance d'avoir des certitudes à ce sujet et il demanda à l'homme de rentrer chez lui et de prier. S'il faisait le même rêve une troisième fois, alors il faudrait aller dans ce sens. Quand l'homme revint le troisième jour et affirma qu'il avait fait le même rêve, le rabbin lui dit ceci. « Désormais, tu dois prier pour que tous les membres de notre communauté de foi fassent ce même rêve. Alors seulement tu seras mon successeur. » Tout le monde peut affirmer avoir fait un rêve ou eu une vision et entendu l'Esprit de Dieu. Comment pouvons-nous juger de l'authenticité d'une telle affirmation? Non grâce à des signes extérieurs garantissant ses rêves ou ses visions, ni grâce à l'expérience, mais grâce à la révélation de Dieu. Sa parole est la preuve ultime de l'authenticité d'un prophète. Voir le point 3 ci-dessus. Le seul signe de la vérité. Les véritables prophètes d'Israël, qu'ils soient pré-canoniques ou canoniques, possèdent à la fois les paroles et l'esprit du Seigneur. À cet élément essentiel, on peut ajouter certains phénomènes physiques extérieurs pouvant accompagner les visions. Par exemple, le prophète a les yeux ouverts en recevant la vision. Nombre 24, verset 4, 16, ou bien il ne respire pas. Daniel 10, verset 17, ou il perd ses forces. Ézéchiel 2, verset 1, Daniel 7, verset 28, 8, verset 27, 10, verset 16, 17. 9. Un prophète est au service de l'Alliance. Un prophète est au service de l'Alliance. Les alliances de la Bible sont le reflet des traités hittites entre les suzerains et leurs vassaux. En effet, les biblistes soulignent que les alliances bibliques comportent plusieurs parties. 1. Un préambule dans lequel le Seigneur et souverain se présente et dit qui il est. 2. Un prologue historique définissant le lien passé entre le Seigneur et son peuple. 3. Des stipulations, autrement dit des lois à observer. 4. Des bénédictions et des malédictions. Dans cette partie, les conséquences de l'obéissance et de la rébellion sont clairement exprimées. Par exemple, dans Lévitique 26 et Deutéronome 27 à 30. 5. Des témoins. Et 6. Des provisions particulières ou des signes de l'Alliance. Le Décalogue, Exode 20, versets 1 à 17, est un bon exemple de ce type de présentation. On peut citer également tout le livre du Deutéronome, qui est structuré selon les différentes parties de l'Alliance, ou encore le chapitre 24 du livre de Josué, dans lequel on découvre que l'Alliance est renouvelée sous la direction de Josué. Le chapitre est divisé en 6 parties, 24, 2a, 2b à 13, 14 à 18, 19 à 21, 22 à 24, 25 à 27. Oswald souligne à juste titre que le rôle essentiel d'un prophète israélite est de rappeler au peuple l'alliance dans laquelle s'inscrit sa relation avec Yahvé et le comportement qu'il doit par conséquent adopter. Dans le cadre de notre étude, il convient de mettre l'accent sur les bénédictions et les malédictions liées à l'alliance. Les prophètes sont invités à rappeler au peuple les implications de leur relation avec Dieu. Sa désobéissance entraîne des malédictions et des catastrophes. Cet appel à l'obéissance telle qu'elle est définie dans l'Alliance rappelle au prophète qu'elle est la seule voie possible dans l'histoire. L'avenir n'est pas déterminé, mais il dépend des choix du peuple et de son respect de l'Alliance. Grudem explique avec justesse qu'un prophète est un messager de l'Alliance, envoyé auprès du peuple d'Israël pour lui rappeler les termes de son alliance avec le Seigneur, appelant ceux qui lui désobéissent à se repentir et les avertissant que les conséquences de la désobéissance ne tarderont pas. Les prophètes employaient le langage fort des malédictions de l'Alliance afin d'inciter le peuple à répondre à l'appel de Dieu. Ils insistaient sur la fidélité de Dieu, sur la désobéissance du peuple et la punition imminente, l'action en justice de l'Alliance. Ils appelaient le peuple à être participant de la nouvelle Alliance avec Dieu. Ainsi, les Israélites étaient des porte-paroles de l'Alliance. 10. Un prophète est un médiateur et un intercesseur. La première occurrence explicite du mot « Nabi » dans la Bible est associée à un ministère d'intercession. Dieu assure Abimélec qu'il vivra si Abraham, le prophète, prie pour lui. Genèse 20, verset 7-17. Les prophètes se tiennent entre Dieu et son peuple et sont des intermédiaires. Moïse pria pour Pharaon, Exode 8, versets 8, 12, 28 à 30, 9, versets 28 à 33, 10, versets 16 à 18. Un prophète est un homme de prière, Ésaïe 37, versets 1 à 4, Jérémie 10, versets 23 à 25. Samuel joua un rôle majeur dans la protection du peuple de Dieu, Jérémie 15, versets 1, Osée 12, versets 13. Samuel suivit l'exemple de Moïse et intercéda comme lui, Exode 32, versets 30, 31. Les prophètes priaient pour le peuple et avec lui. Daniel pria avec ses trois amis, Daniel 2, versets 20 à 23, et pour la nation entière, Daniel 9, versets 4 à 19. Abraham pria pour Abimélec, Genèse 20, versets 17, 18, et Moïse pria pour les pécheurs, Exode 32, versets 31, 32. Élie encouragea la nation entière à servir le Seigneur plutôt que Baal. Puis il pria Dieu, et celui-ci répondit de façon spectaculaire et tangible. 1 Rois 18. Non seulement les prophètes priaient pour les pécheurs, mais ils portaient symboliquement leurs péchés. Ézéchiel 4, versets 4 à 6. Ils exerçaient donc la fonction de prêtre. Il est également intéressant de noter qu'au moins trois prophètes faisaient partie de la famille des prêtres. Jérémie, Ézéchiel, et Zacharie. Ils approchaient de Dieu au nom du peuple. 11. Un prophète encourage le réveil et la réforme. Les prophètes prônent une relation authentique, riche de sens et dénuée de formalisme avec Dieu. Ils appellent à la repentance. Ézéchiel 18, verset 31, 33, verset 11. Amos utilise à trois reprises l'expression « recherchez le Seigneur et vivez ». Et il dénonce tous les péchés, comme l'idolâtrie, l'orgueil, l'égoïsme, le meurtre, l'exploitation, la violence, l'injustice et l'infidélité. Ézéchiel 20, 22. Les prophètes soulignent l'importance d'une relation avec Dieu fondée sur l'amour et la reconnaissance. Ésaïe 58, versets 13, 14, Ézéchiel 36, versets 24 à 28, Michée 7, versets 15 à 20, Sophonie 3, versets 14 à 20. Ils bousculent le peuple et luttent contre l'immobilisme, la léthargie spirituelle, le confort de la vie, la paresse et le statu quo. Les prophètes aident le peuple à entretenir une relation sincère avec Dieu. Il t'a fait connaître, ô humain, ce qui est bon. Et qu'est-ce que le Seigneur réclame de toi, si ce n'est que tu agisses selon l'équité, que tu aimes la fidélité et que tu marches modestement avec ton Dieu? Michée 6, verset 8. La mission sociale des prophètes est importante. Ils appellent chaque être humain à se repentir, à faire preuve de fidélité vis-à-vis de Dieu et de son alliance. Les rois, les prêtres, les juges, les faux prophètes, les riches, les officiels, les chefs militaires, les gens du peuple, les femmes, les enfants. Voir par exemple Joël 2, versets 12 à 19. Ézéchiel 14, verset 6, 33, verset 11, 12. Ce sont des réformateurs, et ils encouragent le peuple à se préoccuper des pauvres, des orphelins, des veuves et des étrangers. Deutéronome 14, verset 29, Ésaïe 9, verset 17, 10, verset 2. Ils sont opposés à toute forme d'orgueil, de corruption, d'injustice, de violence, d'abus, d'immoralité et de tromperie. Jésus résume cette importance des questions sociales dans sa parabole sur le jugement dernier. Jésus, le prophète par excellence, mentionne six actions sociales à quatre reprises et toujours dans le même ordre. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu me voir. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli? Ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus te voir ? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un de ses plus petits, l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Matthieu 25, versets 34 à 40. Reinhold Niebuhr déclare que les messages d'un véritable prophète, transmis à une époque de grande méchanceté, peuvent susciter un sentiment d'insécurité. La nécessité de procéder à ces changements fait naître un sentiment de malaise et devrait conduire à des actions de réforme. Dieu ne détruira pas son peuple, même si le message du jugement et de la condamnation est fort. Le jour du Seigneur viendra, Sophonie 1, verset 14. Mais Dieu ne se réjouit pas de la mort des méchants. Au contraire, il désire que ceux-ci se repentent. Ézéchiel 18, verset 31. Pour Dieu, la mort est une contradiction, car il est la source et l'auteur de toute vie, il est le Créateur. La punition et la destruction ne sont pas dans sa nature, mais c'est une œuvre extérieure qui doit être accomplie pour pouvoir écarter le mal et protéger la vie. Ésaïe 28, versets 20 et 1. Les prophètes mettaient l'accent sur le danger du péché et sa dimension trompeuse en révélant la sainteté, la justice et la pureté de Dieu. Ils appelaient inlassablement le peuple à la repentance. 12. Un prophète enseigne la justice. Les prophètes enseignaient ce qu'est la véritable adoration. Amos 5, versets 21 à 24. On peut citer Élie, 1er roi 18, bien sûr, mais beaucoup d'autres également. Jérémie 1, verset 3, Malachie 3, verset 7. Ésaïe s'éleva contre l'adoration hypocrite. Ésaïe 1, verset 10 à 20. Sophonie appela Israël à exercer un ministère par le chant. Sophonie 3, verset 14-15. Et Michée dénonça un mode de vie centré sur des rites et non sur une moralité et une éthique authentique. Michée 6, verset 6 à 8. Les prophètes insistaient sur le sens du véritable jeûne. Ésaïe 58, verset 6 à 14. L'observation du sabbat. Ésaïe 56, versets 3 à 8, 58, versets 12 à 14, Ézéchiel 20, versets 12 à 20, l'amour et la justice, Zacharie 7, 8, et d'autres sujets importants, Malachie 2, versets 10 à 16, 3, versets 8 à 12. Rolf Rantorf souligne que les prophéties ne devraient pas être dissociées de la Torah, car les prophètes sont les gardiens de la loi. Ésaïe 8, verset 20. Ils enseignent ce qui est vrai et juste. Ils présentent la vérité au sujet de Dieu et ils transmettent ses instructions, la Torah. Ce rôle d'enseignement résume bien d'autres aspects de leur ministère. Cette fonction d'enseignant fut formalisée par le prophète Samuel qui fonda les écoles prophétiques. Elles prospérèrent à l'époque d'Élie et d'Élisée. Les prophètes ont bien d'autres fonctions. Ils jouent le rôle de pasteur et de consolateur, comme Ézéchiel lors de l'exil babylonien après la chute de Jérusalem en 587 à 586 avant Jésus-Christ, quand il parlait d'espérance aux exilés, voir Ézéchiel 36, 37. Les prophètes encourageaient le peuple, comme Ésaïe, Ésaïe 40, versets 1, 2, Sophonie, Sophonie 2, versets 3, 3, versets 11 à 17, ou Habacuc, Habacuc 3, versets 13 à 19. Les prophètes peuvent être des évangélistes ou des missionnaires, comme le prophète Jonas, qui fut envoyé par Dieu pour proclamer un message aux Ninivites, Jonas 1 à 4. Conditionnalité de la voix prophétique. Toutes les prophéties bibliques ne sont pas conditionnelles. Comment peut-on déterminer si une prophétie parle d'un avenir possible ou d'un avenir déterminé? Existe-t-il une différence entre les prophéties classiques et les prophéties apocalyptiques? Quels principes sous-tendent la conditionnalité des prophéties? Je propose quatre principes qui permettent d'établir la conditionnalité des différentes prophéties.
Premier principe. Une prophétie ou une déclaration biblique est conditionnelle quand elle comporte le mot « si » ou le mot « quand ». Si vous m'écoutez, vous prospérerez. Sinon, voici ce qui adviendra. Voir par exemple Lévitique 26 et Deutéronome 28 à 30.
Deuxième principe. Chaque fois qu'une réponse de l'homme est attendue suite à une prophétie ou à un message prophétique,
la prophétie est conditionnelle. Dieu envoie des messages avec un but précis en tête, à savoir ramener son peuple à lui. Joël 2, versets 12 à 15. Dieu ne veut pas que ceux qui le connaissent meurent en pécheurs. A. Cela apparaît clairement dans la déclaration apparemment inconditionnelle de Jonas. Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Il proclamait « Encore 40 jours et Ninive est détruite ». Jonas 3, verset 4. Cette prophétie était conditionnelle, même si cette déclaration ne comporte pas le mot « si » ni le mot « quand ». Cette phrase était très claire, mais elle était conditionnelle parce qu'une réponse était attendue. De fait, les Ninivites acceptèrent l'appel de Dieu et ils ne furent pas détruits. Le fait même que Jonas fût envoyé auprès d'eux par Dieu était déjà un acte de grâce. Cela correspond tout à fait à l'explication de Dieu. Tantôt je parle, à propos d'une nation ou d'un royaume, de déraciner, de démolir et de faire disparaître. Mais si cette nation contre laquelle j'ai parlé revient du mal qu'elle a fait, je renonce au mal que je pensais lui faire. Et tantôt je parle, à propos d'une nation ou d'un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui me déplaît, sans m'écouter, je renonce au bien que j'avais parlé de lui faire. Jérémie 18, versets 7 à 10. Dieu désire que ses paroles portent du fruit. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyé. Ésaïe 55, verset 11. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclaration du Seigneur, et comme un marteau qui fait éclater le roc. Jérémie 23, verset 29. B. Concernant la maladie d'Ézéchias, aucune condition ne fut énoncée, mais elle était conditionnelle, comme nous l'indique le contexte. En ces jours-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Ésaïe, fils d'Amoz, le prophète, vint le trouver et lui dit « Ainsi parle le Seigneur, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Deuxième Rois, 20, verset 1. Il s'agit d'une déclaration claire, sans compromis possible. Alors Ézéchias pria avec une grande sincérité « S'il te plaît, Seigneur, souviens-toi, je t'en prie, que j'ai marché devant toi avec loyauté et d'un cœur entier, et que j'ai fait ce qui te plaît. » Et Ézéchias se mit à pleurer abondamment. Verset 3. Dans sa grâce, Dieu réagit ainsi. Ésaïe n'était pas encore sorti de la cour centrale lorsque la parole du Seigneur lui parvint. « Retourne dire à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle le Seigneur, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes, je te guéris. Le troisième jour, tu monteras à la maison du Seigneur. J'ajouterai 15 années à ta vie. Je te délivrerai, ainsi que cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Versets 4 à 6. C. Voici le conseil que donna Daniel à Nabuchodonosor. Voici l'interprétation, ô roi. Voici le décret du Très-Haut qui t'atteindra, ô roi. On te chassera d'entre les humains, tu auras ta demeure avec les bêtes sauvages, et on te donnera, comme aux bœufs, de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut est maître de la royauté des hommes, et qu'il la donne à qui il veut. L'ordre de laisser la souche de l'arbre avec ses racines signifie que ta royauté subsistera pour toi quand tu sauras que c'est le ciel qui est le maître. Aussi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés par la justice, et à tes fautes par la compassion envers les pauvres, et ta tranquillité se prolongera. Daniel 4, versets 21 à 24. Dieu accorda à Nabuchodonosor une année de grâce, voir les versets 25 à 30. Mais en raison de son arrogance et de son orgueil, le Seigneur l'humilia afin de le ramener à lui. 7 ans après, Nabuchodonosor loua le Dieu Très-Haut parce qu'il avait compris qu'il était le roi souverain. Après le temps marqué, moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. Je bénis le Très-Haut, je louai et glorifiai celui qui est vivant pour toujours, dont la domination durera toujours et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre comptent pour rien. Il agit comme il lui plaît avec l'armée du ciel et avec les habitants de la terre. et il n'y a personne qui lui résiste et lui dise « Que fais-tu ?» À ce moment, la raison me revint. L'honneur de ma royauté, ma magnificence et ma splendeur me furent rendus. Mes conseillers et mes grands me réclamèrent. Je fus rétabli dans ma royauté et ma grandeur ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi du ciel, dont toutes les œuvres sont vraies et dont les voies sont justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Versets 31 à 34. Les prophéties prédictives classiques sont de nature conditionnelle, contrairement aux prophéties apocalyptiques qui sont inconditionnelles. L'époque de la première venue du Christ était-elle conditionnelle ? Non, car quand est venu l'accomplissement du temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et assujetti à la loi. Galates 4, verset 4, voir aussi Daniel 9, versets 24 à 27. La première venue du Christ ne dépendait pas de la réaction des hommes. La deuxième venue du Christ est-elle conditionnelle ? La réponse est non, concernant l'événement en lui-même, mais oui, concernant le temps où il reviendra. Jean affirme clairement « Et il jura par celui qui vit à tout jamais, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve. Il n'y aura plus de délai. Chronos égale période de temps. » Apocalypse 10, verset 6. Il est important de souligner que dans ce texte, nous ne trouvons pas le mot « kairos » qui indique un moment donné dans le temps, mais « chronos » qui évoque une période de temps spécifique. Ainsi, Jésus-Christ reviendra, que nous soyons prêts ou non. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent. Il est patient envers vous. Il ne souhaite pas que quelqu'un se perde, mais que tous accèdent à un changement radical. 2 Pierre 3, verset 9. Troisième principe. Les prophéties sont conditionnelles si le même prophète ou le même auteur biblique ou si un prophète ou un auteur biblique postérieur explique qu'elles étaient conditionnelles en raison d'un changement de situation ou de l'entêtement ou de l'indifférence des gens. Par exemple, prêtez attention à la façon dont Dieu parla de l'attaque de Nabuchodonosor sur Tyr. Car ainsi parle le Seigneur Dieu. J'amène du nord contre Tyr Nabuchodonosor, roi de Babylone, le roi des rois, avec des chevaux, des chars, des équipages, une assemblée de troupes nombreuses. Ézéchiel 26, verset 7, voir aussi les versets 8 à 11. Dieu prédit un véritable saccage à Nabuchodonosor. On prendra tes richesses comme butin, on pillera tes marchandises, on rasera tes murailles, on démolira tes maisons luxueuses, et on jettera au milieu de l'eau tes pierres, ton bois et ta poussière. Je ferai cesser le tumulte de tes chants, et on n'entendra plus le son de tes lyres. Je ferai de toi un rocher nu, tu seras un lieu où l'on étend les filets, tu ne seras plus rebâti, c'est moi, le Seigneur, qui ai parlé. Déclaration du Seigneur Dieu, versets 12 à 14. Nabuchodonosor fit le siège de Tyr pendant 13 ans, de 586 à 585, à 573 à 572 avant Jésus-Christ. Pourtant, il ne parvint jamais à conquérir réellement Tyr. Une nouvelle interprétation est donnée dans Ézéchiel 29, où Dieu promet de lui donner l'Égypte au lieu de Tyr. Humain, Nabuchodonosor, roi de Babylone, a fait faire à son armée un service pénible contre Tyr. Toute tête est tondue, toute épaule est écorchée, et il n'a retiré de Tyr aucun salaire, ni lui, ni son armée, pour le service qu'il a fait contre elle. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur Dieu. Je donne l'Égypte à Nabuchodonosor, roi de Babylone. Il emportera son abondance, il y prendra du butin, il la pillera. Ce sera un salaire pour son armée. Ézéchiel 29, versets 18-19. Quatrième principe. Les prophéties sont conditionnelles quand cela est dit dans le cadre d'une alliance. Une alliance comporte des éléments conditionnels. On trouve des exemples de prophéties conditionnelles liées à une alliance concernant la restauration d'Israël, comme la création de la Nouvelle Jérusalem dans le contexte de la Nouvelle Terre et des Nouveaux Cieux, Ésaïe 65, versets 17 à 25. La prophétie sur Gog et Magog, Ézéchiel 38-39, la reconstruction du temple d'Ézéchiel, Ézéchiel 40 à 48, et le rétablissement du royaume de Dieu, décrit dans Zacharie 14. Les prophètes de l'Ancien Testament pouvaient-ils se tromper ? il n'est pas aussi simple de répondre à cette question qu'il n'y paraît. Les prophètes de la Bible pouvaient-ils se tromper, s'égarer, faire des erreurs, dire ou enseigner des choses qui n'étaient pas justes? Nous aimerions pouvoir répondre à cette question sans ambiguïté, par un oui ou par un non. Pour certaines personnes, le simple fait de suggérer cela ou de poser cette question revient à rejeter la vérité ou à être hérétique. Ainsi, il est important de préciser ce que nous voulons dire par là, car il s'agit d'une question légitime, comme nous allons le voir ci-dessous. Cette étude importante sur l'égarement possible des prophètes comporte sept parties. Tout d'abord, il convient de dire que la réponse à cette question difficile et pour le moins provocante doit être fondée sur le texte biblique. Nous devons laisser la Bible parler et veiller à ne pas transposer nos idées, nos concepts ou nos souhaits à la vie des prophètes. C'est la raison pour laquelle nous prendrons des exemples tirés des écrits prophétiques. Cette réflexion biblique pourra être confirmée par l'opinion de biblistes ou de théologiens, mais leur point de vue n'est pas notre priorité. J'ai un respect immense pour les saintes écritures. Je crois que la Bible est la parole de Dieu, et non que la Bible contient seulement la parole de Dieu ou devient la parole de Dieu dans certaines situations spécifiques. 1 Corinthiens 2, verset 13, 1 Thessaloniciens 2, verset 13, 2 Timothée 3, verset 15 à 17, 2 Pierre 1, verset 19 à 21. Je suis d'accord avec l'idée que les saintes écritures font autorité en matière de foi et de vie pratique. Elles sont la norme dans le domaine de la vérité et de la moralité. J'accepte le principe sola scriptura qui implique que tout doit être jugé selon l'écriture seule. La Bible est le fondement de toute chose. Elle est le critère selon lequel tout jugement doit s'exercer en matière de croyance, de comportement et d'éthique. Cela étant, la question demeure, les prophètes peuvent-ils faire des erreurs? Notre première réponse est oui. Bien sûr, il me revient de préciser ce que je veux dire par là. Dans quel sens un prophète peut-il s'égarer? Il existe plusieurs types d'erreurs. Toutes les erreurs n'ont pas la même valeur et les mêmes conséquences. Réfléchissons aux différentes catégories d'erreurs.
Vie personnelle. Les prophètes peuvent faire des erreurs, commettre des péchés ou s'égarer dans leur comportement personnel. Malheureusement, la Bible nous donne plusieurs exemples. A. Abraham, Genèse 12 à 25. Il ne fit pas toujours confiance à Dieu, il mentit au sujet de sa femme et il lui demanda de mentir à deux reprises, et il épousa Agar. Cependant, il acquit une grande maturité spirituelle, et après sa mort, le Seigneur dit à son sujet « Abraham m'a écouté et il a gardé mes observances ». Mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Genèse 26, verset 5. B. Moïse. Exode 2, verset 14. Nombre 20, verset 11, 12. Deutéronome 32, verset 51. Il tua un garde égyptien et frappa le rocher deux fois, au lieu de lui parler. Cependant, dans son amour inlassable, Dieu déclara à son sujet « Il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse, que le Seigneur connaissait face à face. » Deutéronome 34, verset 10. C. David. 2 Samuel 11, 12. Il commit un adultère et tua un ami proche afin de dissimuler son meurtre. Cependant, Dieu rendit un témoignage exceptionnel à son sujet quand il communiqua avec le roi Jéroboam. « J'ai arraché le royaume à la maison de David et je te l'ai donné. Mais tu n'as pas été comme David, mon serviteur, qui a observé mes commandements et qui m'a suivi de tout son cœur, pour ne faire que ce qui me convenait. » 1 Roi, 14, verset 8. D. Balaam, nombre 22 à 25. C'est un exemple très négatif en raison de son amour de l'argent, de son égoïsme et de ses conseils inappropriés. C'est un véritable prophète qui devint apostat. D'un autre côté, si nous étudions attentivement la vie des prophètes Hénoch, Joseph et Daniel, nous constatons qu'aucune erreur de leur part n'est mentionnée. Genèse 5, versets 22 à 24, 50, versets 19 à 21, Daniel 6, versets 4, 5, 22. Ce résumé nous rappelle que les véritables prophètes sont humains dans le sens où ils peuvent pécher et faire des erreurs dans leur vie privée. Cependant, ils ne persistent pas dans leur péché. David est le plus bel exemple de la véritable repentance. Voir Psaume 32, 51 et 139, Daniel 9, versets 4 à 20. Conseil personnel. Les prophètes peuvent-ils se tromper dans les conseils qu'ils donnent? En effet, ils peuvent faire des déclarations erronées. Cependant, lorsque c'est le cas, ils n'utilisent généralement pas l'expression « ainsi dit le Seigneur ». Nous trouvons un exemple caractéristique de ce type d'erreur dans 2 Samuel 7, quand David rencontra le prophète Nathan et exprima le désir sincère et profond de bâtir un temple pour le Seigneur. Nathan lui répondit « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car le Seigneur est avec toi. » 2 Samuel 7, verset 3. Ce conseil semblait raisonnable, mais notez bien que Nathan ne précisa pas à David que cette recommandation venait de Dieu. C'était un conseil personnel donné par le prophète Nathan au roi David, mais parce qu'il s'agissait d'une grande erreur, Dieu le corrigea immédiatement. Cette nuit-là, la parole du Seigneur parvint à Nathan. « Va dire à David, mon serviteur, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ?» Versets 4 et 5. Le prophète Nathan dut faire preuve d'humilité et revenir sur ce qu'il avait dit, mais cette fois, il employa une formule d'introduction solennelle qui mit en évidence l'origine divine de ses paroles.
Grammaire et orthographe. Les prophètes peuvent faire des fautes de grammaire, à moins que ces fautes soient le fait des copistes, ce qui est très peu probable, et d'orthographe. En cas de problème grammatical, il convient d'étudier le but, l'intention, le message général et le principe théologique des déclarations prophétiques. Nous vivons un temps bien éloigné de celui des auteurs bibliques, ce qui rend la compréhension de leur langue, du contexte géographique, des coutumes, des habitudes et de la culture difficile. Nous savons aussi que certains prophètes se faisaient aider. C'était notamment le cas de Jérémie qui travaillait étroitement avec Baruch. Voir le récit de Jérémie 36 et plus particulièrement les versets 4 à 10 et 28.
Citation de mémoire. Il arrive que les auteurs bibliques citent de mémoire d'autres livres de l'Ancien Testament sans pour autant mentionner leurs sources. Certains détails peuvent-ils leur avoir échappé? Nous pouvons prendre 2 exemples. Tout d'abord, le texte de Marc 1, versets 2-3, est une citation de Malachie 3, verset 1, et d'Ésaïe 40, verset 3, mais pas uniquement d'Ésaïe, comme le montre l'évangile de Marc. Cependant, la version New King James propose cette traduction basée sur le Textus Receptus. « As it is written in the prophets, behold, I send my messenger. » Marc 1, verset 2, soit « selon ce qui est écrit dans les prophètes ». Deuxièmement, le texte de Matthieu 27, verset 9, est manifestement une citation de Zacharie 11, verset 12-13, avec des allusions à Jérémie 19, verset 1 à 13, Jérémie 18, verset 2 à 12, ou Jérémie 32, verset 6 à 9, et non de Jérémie, comme l'affirme Matthieu.
Détail historique.
Les prophètes ou les auteurs bibliques peuvent-ils parler de certains événements en omettant certains détails précis? Peuvent-ils se tromper en relatant des histoires? On peut trouver 2 types d'erreurs. 1. Il peut s'agir de simples erreurs de chiffres, ce qui a peu d'incidence. En voici 3 exemples. A. D'après 2 Samuel 10, verset 18, David vainquit les Araméens en tuant les équipages de 700 chars et 40 000 cavaliers. Dans 1 Chronique 19, verset 18, il est question des équipages de 7000 chars et de 40000 fantassins. B. Dans 1 Roi 4, verset 26, nous découvrons que Salomon avait 40000 stalles pour ses chevaux, alors que dans 2 Chronique 9, verset 25, nous lisons qu'il en avait 4000. C. D'après 2 Roi 24, verset 8, Joïakin avait 18 ans lorsqu'il devint roi. Mais selon 2 Chronique 36, verset 9, il avait 8 ans. Il est évident que ces erreurs de chiffres sont dues à des problèmes de transcription. 2. On peut également noter des inexactitudes concernant certains détails historiques. A. L'inscription accusant Jésus sur la croix. Cet homme est Jésus, le roi des Juifs. Matthieu 27, verset 37. Le roi des Juifs. Marc 15, verset 26. Cet homme est le roi des Juifs. » Luc 23, verset 38. « Jésus le Nazoréen, le roi des Juifs. » Jean 19, verset 19. Même si on peut noter des différences de détails, il n'en reste pas moins que l'essentiel est préservé. Chaque évangile mentionne l'inscription suivant un point de vue théologique précis. De plus, cette inscription était écrite en trois langues, araméen, latin et grec. Il arrive que les évangélistes ne cherchent pas à donner des détails historiques précis. Pour eux, l'histoire est importante dans la mesure où elle précise le contexte. Ainsi, certaines différences entre les évangiles peuvent s'expliquer selon le point de vue théologique et la perspective de l'auteur. B. Combien d'hommes possédés par un démon Jésus guérit-il ? 1 ou 2 ? Dans Matthieu 8, versets 28 à 34, deux hommes possédés par un démon sont mentionnés. Dans Marc 5, versets 1 à 20, un homme agité par un esprit mauvais est décrit. Dans Luc 8, versets 26 à 37, il est question d'un homme possédé par un démon. C. Combien d'aveugles furent guéris près de Jéricho ? 1 ou 2 ? Deux aveugles furent guéris quand Jésus quitta Jéricho. Matthieu 20, versets 29 à 34. Un aveugle nommé Bartimée fut guéri alors que Jésus quittait la ville. Marc 10, versets 46 à 52. Voir aussi Luc 18, versets 35 à 43. Mais Luc mentionne le fait que cela se produisit alors que Jésus approchait de Jéricho. Une chose importante mérite d'être soulignée. Toutes ces inexactitudes historiques sont mineures et elles n'altèrent pas le récit global. Elles ne déforment pas le message et ne nuisent pas à l'intention de l'auteur. Chaque petite erreur doit être étudiée et évaluée attentivement. De nombreux détracteurs de la Bible aimeraient pouvoir affirmer que les Écritures ne sont pas une source de vérité fiable. D'après certains érudits, la Bible contiendrait de nombreuses erreurs et inexactitudes historiques. En réalité, il a été prouvé bien des fois que la parole de Dieu est fiable et juste dans le domaine historique. Par exemple, dans l'introduction du livre de Daniel, il est écrit « La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur lui livra Joachim, roi de Juda, et une partie des objets de la maison de Dieu. Il les emmena au pays de Shinéar, dans la maison de ses dieux, et il mit les objets dans le trésor de ses dieux. » Daniel 1, versets 1, 2. Le Babylonian Chronicles décrit les premières années du règne de Nabuchodonosor de façon précise. La bataille de Carchemish, qui eut lieu en mai-juin de l'année 605 avant Jésus-Christ, est mentionnée. Nécao, le pharaon d'Égypte, affronta Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Étonnamment, le pharaon égyptien Nécao fut vaincu et cette victoire permit à Nabuchodonosor d'entrer dans le territoire syro-palestinien. Ainsi, le texte de Daniel 1, versets 1, 2, correspond exactement à cette description. La chute de Babylone se produisit en octobre 539 avant Jésus-Christ. D'après Daniel 5, Belshazzar était roi de Babylone, un fait démenti par les spécialistes. Cependant, nous savons que Nabonide confia à Belshazzar la royauté quand il partit pour Taïma, où il resta pendant 10 ans. D'après Daniel 5, Belshazzar proposa à Daniel d'occuper le troisième rang du royaume babylonien, après Nabonide et Belshazzar. Les récits historiques soulignent que Nabonide n'était pas dans la ville quand elle tomba. Seul un témoin oculaire pouvait donner avec autant de précision les détails relatés dans Daniel 5. Pour les détails historiques non mentionnés dans la Bible, voir Nabonidus Chronicles et Verse Account of Nabonidus. Prédiction de l'avenir. L'une des nombreuses caractéristiques des prophètes de Dieu est que leurs prophéties doivent s'accomplir. Quand le prophète parle au nom du Seigneur et que la parole ne se réalise pas, qu'elle n'arrive pas, c'est une parole que le Seigneur n'a pas dite. C'est par arrogance que le prophète l'a dite. Tu n'auras pas peur de lui. Deutéronome 18, verset 22. L'accomplissement des prophéties est important. C'est l'un des critères permettant de déterminer si elles sont authentiques. C'est la crédibilité des prophètes qui est en jeu. Mais réfléchissez au texte suivant.
S'il se lève en ton sein un prophète ou un faiseur de rêves qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'arrive le signe ou le prodige dont il t'a parlé, en disant « Suivons d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas, et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce faiseur de rêves. C'est le Seigneur, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Deutéronome 13, versets 1 à 4. Les prédictions des faux prophètes peuvent se réaliser telles qu'elles ont été annoncées et peuvent même être accompagnées de miracles. Ces prédictions peuvent se concrétiser, mais si elles éloignent le peuple du Dieu vivant et de sa vérité, ces prophètes ne doivent pas être écoutés. On peut citer en exemple l'opposition virulente de nombreux faux prophètes au prophète Jérémie. Ce récit relaté dans les chapitres 27 et 28 de Jérémie se situe aux alentours de 593 avant Jésus-Christ, sous le règne de Sédécias, 597-587/586, le dernier roi de Juda. Il fut placé sur le trône par Nabuchodonosor, le roi de Babylone, et il lui prêta allégeance. Même si Babylone était une puissance dominante, Juda se rebella contre Babylone et se tourna vers l'Égypte pour obtenir de l'aide. Jérémie transmit un message fort à Sédécias, le roi de Juda. « Faites preuve de fidélité et soumettez-vous à Babylone. » Mais ce message fut interprété comme une trahison politique. Jérémie se battit toute sa vie contre les faux prophètes. Il dut les dénoncer avec force. « Quant à vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos propres rêves, vos chercheurs de présages, vos sorciers, eux qui vous disent « Vous ne serez pas soumis au roi de Babylone. » Car c'est le mensonge qu'ils vous annoncent en prophète, afin de vous éloigner de votre terre, pour que je vous bannisse et que vous disparaissiez. » Jérémie 27, versets 9, 10. Jérémie accomplit une action symbolique. « Ainsi m'a parlé le Seigneur. Fais-toi des liens et des barres de joue et mets-les sur ton cou. » Verset 2. « C'est exactement ce que j'ai dit à Sédécias, roi de Juda. Placez votre cou sous le joug du roi de Babylone, soumettez-vous à lui et à son peuple, et vous vivrez. » Verset 12. Après cela, Jérémie se rendit au temple et il y rencontra Anania, un faux prophète. Anania lui dit en présence des prêtres et d'autres personnes « Ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 années et je ramène en ce lieu tous les objets de la maison du Seigneur, que Nabuchodonosor, roi de Babylone, a pris de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Et je ramène en ce lieu, déclaration du Seigneur, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les exilés de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. » Jérémie 28, versets 2 à 4. Alors le prophète Jérémie déclara au prophète Anania, devant les prêtres et tous ceux qui étaient présents dans la maison du Seigneur, qu'il en soit ainsi, que le Seigneur fasse ainsi, que le Seigneur réalise les paroles que tu as dites en prophète, et qu'il ramène de Babylone en ce lieu les objets de la maison du Seigneur et tous les exilés. Seulement écoute, je te prie, cette parole que je te dis, à toi et à tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, depuis toujours, ont annoncé contre de nombreux pays et de grands royaumes la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète annonce que tout ira bien, c'est quand viendra ce qu'il a annoncé qu'il sera reconnu comme un prophète vraiment envoyé par le Seigneur. Versets 5 à 9. Anania ôta le joug du cou du prophète Jérémie, le brisa de façon spectaculaire et déclara « Ainsi parle le Seigneur, c'est ainsi que dans 2 années, je briserai le joug que Nabuchodonosor, roi de Babylone, fait peser sur toutes les nations. » Verset 11. Puis la parole de Dieu fut adressée à Jérémie. « Va, tu diras à Anania, ainsi parle le Seigneur. Tu peux briser des barres de bois, tu les remplaceras par des barres de fer. Car ainsi parle le Seigneur, des armées, le Dieu d'Israël. J'ai mis un joug de fer sur le cou de toutes ces nations, pour qu'elles se soumettent à Nabuchodonosor, roi de Babylone, et elles se soumettront à lui. » Versets 13 et 14. Après cela, Jérémie annonça « Écoute, je te prie, Anania, le Seigneur ne t'a pas envoyé, et toi, tu incites ce peuple à mettre sa confiance dans un mensonge. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur, je te renvoie de la terre,
Tu mourras cette année, car tu as appelé à la subversion contre le Seigneur. » Versets 15 et 16. Si vous aviez vécu à cette époque, comment auriez-vous su que Dieu parlait par l'intermédiaire de Jérémie et non par Anania? Vous auriez pu attendre le dénouement. Le prophète Anania mourut cette année-là, au septième mois. Verset 17. Sédécias se rebella contre Babylone, et donc contre Dieu, son message et son messager. Des événements tragiques survinrent en 587 à 586 avant Jésus-Christ. La ville de Jérusalem fut totalement anéantie. Le temple fut détruit par le feu. Le peuple fut déporté à Babylone et la nation cessa d'exister. Une catastrophe nationale par excellence. Puis, Sédécias connut une tragédie personnelle. 2 Roi 25, versets 5 à 7. Il fut fait prisonnier et amené à Ribla, où ses deux fils furent tués devant ses yeux. Il eut les yeux crevés, il fut attaché avec des entraves et emmené en captivité. Quelle tragédie personnelle! Si seulement il avait fait confiance au Seigneur, s'il avait écouté son prophète et obéi à ses paroles. Ah! Les prophéties doivent-elles se réaliser? Oui! La Bible est claire sur ce point. Quand ces choses arriveront, et elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Ézéchiel 33, verset 33. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sacrée, pour faire cesser la transgression et mettre fin au péché, pour faire l'expiation de la faute et amener la justice pour toujours, pour sceller vision et prophète et pour conférer l'onction à un très sacré. Daniel 9, verset 24. Sceller vision et prophète signifie rendre crédible la vision prophétique. C'est une allusion à l'accomplissement de la prophétie des 70 semaines. Si cette date faisant référence à la venue, à la mission et à la mort du Messie est avérée, cela permet au lecteur d'avoir la conviction que le reste de la prophétie se réalisera également, à savoir la prophétie sur les 2300 soirs et matins. Daniel 8, verset 14. L'accomplissement de la prophétie des 70 semaines est la preuve que la prophétie plus large sur les 2300 soirs et matins se réalisera aussi. Dieu seul peut prédire l'avenir. Ainsi parle le Seigneur, le roi d'Israël, son Rédempteur, le Seigneur des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Qui est comme moi? Qu'il crie, qu'il l'annonce et m'expose tout ce qui s'est passé depuis que j'ai fondé le peuple d'autrefois. Et qu'ils annoncent aussi ce qui est à venir, ce qui doit encore arriver. Ésaïe 44, versets 6 et 7. B. Toutes les prophéties doivent-elles s'accomplir? Non, car certaines prophéties sont conditionnelles. Pour plus de détails, voir la deuxième partie de cette étude sur la conditionnalité de la voix prophétique. Question doctrinale. Vous avez peut-être noté que ces 6 séries d'exemples n'ont rien à voir avec les enseignements doctrinaux ou les recommandations éthiques des auteurs bibliques. Le véritable problème concerne les erreurs prophétiques en matière de doctrine, de foi ou d'enseignement éthique. Un auteur biblique peut-il se tromper au sujet de la doctrine ou du plan du salut? Ma réponse est clairement non. Les prophètes ne font pas d'erreurs doctrinales. Pourquoi? Parce que 1. Aucun exemple ne montre que certains prophètes aient pu faire des erreurs dans le domaine de la doctrine ou de l'éthique. Et 2. Le Saint-Esprit veillait sur ce domaine de la foi et de la vie pratique. L'Esprit du Seigneur est l'auteur ultime du message biblique et il le préserva de ce type d'erreur. 2 Timothée 3, versets 15 à 17. 2 Pierre 1, versets 19 à 21. C'est l'œuvre surnaturelle de Dieu. Nous acceptons cela par la foi et notre vie spirituelle en dépend. C'est la raison pour laquelle la Bible fait autorité en matière de croyance et de comportement. Dieu veilla sur le processus de transmission de sa parole. Ainsi, nous pensons que la parole de Dieu est infaillible. C'est Dieu qui l'inspira. Le but de Dieu est clair. La Bible est la norme et le juge ultime en matière de doctrine et de vie. Si ce n'était pas le cas, les traditions de l'Église, son enseignement, le magistère,
nous, en tant qu'individus ou groupes de croyants, déterminerions et déciderions ce qu'il convient de croire et de ne pas croire et la façon dont nous devons nous comporter. Nous nous appuierions sur notre approche subjective. Cependant, en tant que croyants, nous nous plaçons sous la bannière du jugement de la parole de Dieu. Nous croyons que la Bible est la révélation objective de Dieu en matière de foi et de vie. Par conséquent, nous pouvons résumer ainsi ce principe essentiel. Les prophètes ne font pas d'erreur concernant les doctrines et notre façon de les mettre en pratique. Je ne connais pas d'exemple de prophètes qui auraient pu faire des erreurs lorsque leurs paroles ont une application universelle. Ils peuvent avoir fait certaines choses personnelles que nous désapprouvons et que nous ne devrions pas imiter aujourd'hui parce qu'elles ne sont que descriptives. Mais nous sommes invités à respecter ce que les auteurs bibliques préconisent ou recommandent, si l'application est universelle, quand cela est d'ordre normatif. Cette différence est cruciale et nous devons apprendre à faire la distinction entre ce qui est descriptif et ce qui est normatif. Parfois, la méthode employée par les prophètes pour atteindre un but était inappropriée et nous devons toujours avoir recours à des principes herméneutiques et exégétiques pour comprendre ce type de situation. Nous en avons un exemple dans le livre de Néhémie. Néhémie voulait réformer le peuple parce que les enfants ne savaient pas parler l'hébreu. Voici ce que fit Néhémie dans ce cas. « En ces jours-là, je vis des Judéens qui avaient épousé des femmes ashdodites, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlait l'ashdodite et ne savait pas parler le judéen. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel autre peuple. Je leur fis des reproches et je les maudis. J'en frappai quelques-uns, je leur arrachai les cheveux et je leur fis prêter serment par Dieu, en disant « Vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils » et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. » Néhémie 13, versets 23 à 25. Un des fils de Joïada, fils d'Éliashib, le grand prêtre, était gendre de Sambala, le horonite. Je le chassai loin de moi. » Verset 28. Ce n'est pas ce que les professeurs d'hébreu ou les pasteurs devraient faire. Ce texte a une valeur descriptive et non normative. On peut également citer l'exemple d'Élie sur le mont Carmel, qui, après l'intervention spectaculaire de Dieu, montrant qu'il était le véritable Dieu vivant, alla tuer tous les faux prophètes. 1 Roi 18, versets 16 à 40. Il fit aussi descendre le feu du ciel pour détruire un groupe de soldats. 2 Roi 1, comparé avec Luc 9, versets 51 à 56. Un prophète peut-il croître dans sa manière de comprendre les choses ? Absolument. Moïse, Exode 19 à 34, Daniel, Daniel 7, verset 28, 8, verset 27, 9, verset 2, Pierre, Actes 10, 11, Galates 2, verset 11 à 16, 2 Pierre, 3, verset 15, Paul, la révélation de Dieu, 3 ans passés en Arabie, voir Galates 1, verset 11 à 24, et les disciples de Jésus, Actes 1, versets 6 à 8, changèrent tous. Cependant, le fait qu'ils aient évolué dans leur compréhension des choses ne signifie pas que précédemment, les prophètes avaient fait des erreurs concernant la création, le péché et le salut. Ils étaient tout simplement capables de mieux expliquer les choses. Pierre déclare : Ce salut, les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était destinée en ont fait l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir quelle époque et quelles circonstances désignaient l'esprit du Christ qui était en eux, esprit qui, d'avance, attestait les souffrances du Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient ministres de ces choses qui maintenant vous ont été annoncées par l'entremise de ceux qui vous ont communiqué la bonne nouvelle avec l'Esprit Saint envoyé du ciel. C'est en ces mêmes choses que les anges désirent plonger leur regard. 1 Pierre 1, versets 10 à 12. Deux questions se posent. Un auteur inspiré peut-il utiliser des sources littéraires en parlant de Dieu ou cet auteur reçoit-il tout directement de Dieu ? Des ressources non bibliques peuvent-elles être utilisées en lien avec les paroles de Dieu ? Ces questions en induisent une autre, à savoir, l'emploi d'écrits non bibliques par un auteur biblique est-il compatible avec l'inspiration ? Le modèle biblique de l'inspiration est un modèle de pensée, aussi appelé la théorie de l'incarnation de l'inspiration, selon lequel le divin prend forme humaine.
la vérité divine est exprimée en langage humain sous la direction du Saint-Esprit. Ainsi, le divin et l'humain sont associés, mais de telle façon que cela produit la parole de Dieu. C'est une position qui nécessite de plus amples explications. Les prophètes étaient imprégnés par la culture de l'époque et le lieu où ils vivaient. Le message de Dieu fut transmis sous différentes formes littéraires, y compris par des actes symboliques non verbaux, comme les récits, la prose, la poésie, les histoires, les chants, les généalogies, les prières, les paraboles, les prophéties, les dialogues, les lois, les paroles de louange et tout ce qui pouvait être exprimé en langage humain. Autrement dit, le contenu de la Bible ne vient pas directement du ciel et n'est pas exprimé dans le langage divin ou le langage des anges. Cette transmission suivit un processus. Il n'est pas difficile d'accepter l'idée que les prophètes aient utilisé les pensées d'autres prophètes inspirés. De nombreux exemples montrent que des auteurs citèrent, paraphrasèrent, conceptualisèrent ou firent allusion au travail d'écrivains antérieurs. Comparez par exemple Michée 4, versets 1 à 3 et Ésaïe 2, versets 1 à 4. Psaume 96, 105 et 106 avec 1 Chronique 16. Osée 11, verset 1 et Exode 4, verset 22. Ézéchiel 38, verset 2 et Apocalypse 20, verset 8. L'auteur des chroniques utilisa plusieurs sources et certaines d'entre elles sont mentionnées dans le texte. On trouve par exemple une référence au chiffre des chroniques du roi David, 1 Chronique 27, verset 24, et au livre des rois de Juda et d'Israël, 2 Chronique 25, verset 26. Il s'agissait probablement d'archives de la cour auxquelles l'auteur biblique avait accès. Il y trouva des informations qu'il utilisa dans la rédaction de son livre. L'auteur évoque d'autres livres. L'histoire du roi David, le début et la fin, cela est écrit dans l'histoire de Samuel, le voyant, Roé, dans l'histoire de Nathan, le prophète, Nabi, et dans l'histoire de Gad, le visionnaire. Chosait. 1 Chronique 29, verset 29. La véritable question est de savoir si un prophète peut emprunter certaines pensées de sources qui ne sont pas inspirées. Un auteur biblique peut-il citer ou utiliser des sources écrites non bibliques? Tous ceux qui étudient la Bible ne devraient pas être surpris de constater que les auteurs bibliques utilisèrent des sources non bibliques dans leurs livres. Ils empruntèrent des mots-clés. Ils utilisèrent des concepts littéraires et des structures similaires, comme les chiasmes ou les alliances bibliques. Ils reprirent certains aspects du droit commun et de la littérature de l'époque, et ils instituèrent des rites similaires, comme la dîme, la prière et la circoncision. Voir Luc 1, versets 1 à 3, Actes 17, versets 28, Jude, versets 14, 15, Apocalypse 1, versets 17, 18. Les prophètes sont-ils humains? Bien sûr, je n'ai jamais entendu parler de prophètes divins, excepté Jésus-Christ. La fragilité humaine des prophètes nuit-elle à leur message qui va au-delà des circonstances et de la culture? En réalité, les principes qu'ils présentent sont pertinents pour toutes les époques. Beaucoup de ceux qui mettent l'accent sur le fait que les prophètes sont humains ont souvent des intentions précises. Ce raisonnement les conduit à penser qu'il n'y a pas d'absolu. Ces personnes affirment généralement que la vérité révélée est relative et qu'il est nécessaire d'interpréter le message de la Bible en fonction du contexte culturel.
Le message biblique est-il conditionné par la culture? Oui et non. Les auteurs bibliques étaient imprégnés de l'époque et de la culture dans laquelle ils vivaient. Même s'ils exprimaient leur message dans le cadre d'une culture déterminée, définissant la langue, la grammaire, la syntaxe, les métaphores et les symboles qu'ils utilisaient, leur message transcende les cultures, car il vient d'en haut et non du contexte ou de la perspective « Sitz im Leben ». Le message de Dieu est exprimé de façon humaine afin que nous puissions le comprendre, car Dieu désire communiquer avec nous. Prenons l'exemple du Décalogue qui comporte des éléments de la culture de l'époque. Sortir de l'Égypte, dans tes villes, la femme n'est pas mentionnée dans le quatrième commandement, mais dont les principes sont éternels. Autre exemple, la structure des alliances bibliques est similaire à celle des traités hittites entre les suzerains et les vassaux,
mais leur contenu est différent et d'origine divine. De la même façon, les récits bibliques de la création comportent des éléments anti-mythologiques. La recommandation faite à Moïse met en évidence un élément culturel destiné à indiquer le respect. Ôte tes sandales. À cette époque, cette expression impliquait la révérence vis-à-vis de Dieu. Exode 3, verset 5, voir aussi Josué 5, verset 15. Même si la révélation de Dieu s'inscrit dans une culture donnée, son message transcende notre expérience humaine, car la vérité de Dieu est au-dessus de toute culture. Dieu nous enseigne sa vérité universelle, ses intentions et ses principes éternels dans le cadre de notre culture, sous la direction du Saint-Esprit. Il peut être difficile d'interpréter le message de Dieu, car nous courons le risque de placer notre raisonnement au-dessus de la révélation divine. Nous pouvons décortiquer, reconstruire, séparer et accepter uniquement les choses qui peuvent correspondre à notre compréhension. Nous devenons ainsi sélectifs. Nous sommes appelés à interpréter les Écritures, mais ce faisant, nous devons nous rappeler que notre raisonnement et notre interprétation du message prophétique sont préliminaires et jamais définitifs. Nous sommes toujours soumis au jugement de la parole de Dieu, et c'est toujours lui qui a le dernier mot. Nous devons accepter humblement le message de Dieu et nous incliner devant celui qui s'appelle « Je suis ». Toutes ces choses, c'est ma main qui les a faites, c'est ainsi qu'elles sont toutes venues à l'existence. Déclaration du Seigneur. Voici sur qui je porterai mes regards, sur le pauvre qui a l'esprit abattu, qui tremble à ma parole. Ésaïe 66, verset 2. Conclusion. Le rôle des prophètes est multiple et varié. Nous avons vu que les prophètes sont appelés par Dieu à exercer un ministère prophétique. Ils sont ses messagers et ils parlent de sa part, ils sont les gardiens de la théocratie et de la moralité, ils sont au service de son alliance et ils interprètent fidèlement le passé, le présent et le futur. Ils veillent sur la vérité divine, mais ils n'en sont pas à l'origine. Ils proclament les paroles de Dieu et ils représentent Dieu car ses paroles leur ont été adressées. Les prophéties ne sont jamais le fruit d'un acte de magie ou de divination. Nombre 24, verset 1. Le contenu de leur message est essentiel, et ils mettent l'accent sur les paroles du Seigneur. Les prophètes sont le symbole de la présence de Dieu, la voix de Dieu adressée au peuple. Ils encouragent le peuple à établir une relation avec Dieu dans le cadre de l'Alliance. Les enseignements d'un nouveau prophète doivent être en parfaite harmonie avec les enseignements des prophètes qui l'ont précédé. Un prophète ne se contente pas de présenter une image juste de Dieu et de combattre certaines perceptions erronées. Le rôle d'un prophète est très vaste. Il fait l'exégèse du passé et il annonce l'avenir. Il est le porte-parole de Dieu. Un prophète est un visionnaire et un voyant, un homme de Dieu, un homme de l'esprit, un homme de la parole, un serviteur de l'Alliance, un médiateur, un homme encourageant le réveil, un réformateur, un pasteur, un évangéliste et missionnaire, un réformateur social, un éducateur, un défenseur de la justice et un gardien de la loi de Dieu. Un prophète est différent d'un prêtre ou d'un roi, et sa fonction est unique. Cependant, un prophète ne doit pas nécessairement assumer toutes ses fonctions pour être prophète ou être reconnu comme tel. En un mot, un prophète est le représentant de Dieu auprès du peuple. Il aide le peuple à prendre de bonnes décisions, étant donné la situation dans laquelle il se trouve. Les auteurs bibliques décidèrent délibérément d'utiliser des sources extérieures, canoniques ou non, inspirées ou non, dans le but de communiquer les paroles de Dieu de façon efficace. Ils étaient imprégnés de leur culture. Ils employèrent les meilleurs outils littéraires pour transmettre fidèlement le message éternel de Dieu. Les prophètes utilisèrent les styles, les concepts, le langage et les sources de leur temps afin de communiquer efficacement avec leurs contemporains. Leur objectif était essentiellement missiologique. Les auteurs bibliques ne vivaient pas de façon isolée et ils connaissaient la littérature de leur temps. Ils utilisaient des ressources non bibliques afin de mettre l'accent sur leur point de vue. Ils aimaient débattre et ils étaient capables de s'excuser. Ils utilisaient la littérature, les structures et les pensées de leur temps, car cela les aidait à formuler le message de Dieu avec précision et efficacité. Ils étaient inspirés par Dieu dans la mesure où celui-ci les aidait à choisir les mots,
les concepts et les ressources appropriées de façon à décrire les vérités bibliques de façon pertinente et belle. La sagesse divine et les pensées humaines étaient associées de telle façon que, grâce à l'influence du Saint-Esprit, le résultat final était l'expression de la parole prophétique. Le Saint-Esprit guidait leur esprit et ils étaient poussés à transmettre des messages inspirés et fiables. Ainsi, il est intéressant de noter que les auteurs bibliques aient pu utiliser des ressources non bibliques car cela leur permettait de communiquer efficacement avec leur auditoire ou leur lecteur. Cette étude a certaines implications concernant le ministère d'Ellen G. White. On peut constater que son ministère correspond bien à la vision de l'Ancien Testament concernant les différents rôles des prophètes. Par ailleurs, il est intéressant et logique de constater que l'usage par Ellen G. White de ressources non bibliques n'est pas un problème, car les prophètes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament avaient fait de même. Elle a pu faire des erreurs dans certains domaines de sa vie, mais nous maintenons qu'elle ne s'est pas trompée s'agissant des doctrines ou des recommandations qu'elle a faites dans le domaine de la vie pratique, l'éthique, tout comme les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas fait d'erreur dans les domaines des doctrines et de la pratique de la foi. Ils ne se sont pas trompés en prédisant l'avenir, même si certaines prophéties sont conditionnelles, et en interprétant le plan du salut. Ce qu'ils affirmaient au sujet de la rédemption est tout à fait digne de confiance. Le Saint-Esprit veillait à la pureté de la révélation de Dieu, car il en est l'auteur ultime. Cette révélation nous a été faite par l'intermédiaire des prophètes et des auteurs bibliques inspirés. C'est la raison pour laquelle la Bible est normative. C'est le fondement de la foi et elle fait autorité en matière de doctrine, la foi et de vie pratique, le comportement et l'éthique. C'est aussi la parole infaillible de Dieu. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Ésaïe 40, verset 8. La parole de Dieu subsistera toujours, car Dieu subsistera toujours. Cela signifie que ceux qui se tiennent aux côtés de Dieu et acceptent sa parole subsisteront toujours avec lui. Les véritables prophètes sont des ambassadeurs de Dieu. C'est la raison pour laquelle ceux qui écoutent leur voix prospèrent. Nous pouvons faire pleinement confiance à Dieu et à ses prophètes. Notre avenir dépend de cette confiance. Je suis reconnaissant pour le don de prophétie et la parole ferme des prophètes. Mais cela ne peut nous faire du bien que si nous prêtons attention aux recommandations du roi Josaphat. Écoutez-moi, mettez votre foi dans le Seigneur, votre Dieu, et vous tiendrez. Mettez votre foi dans ses prophètes, et vous vaincrez. Deuxième Chronique, 20, verset 20.